RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Une après-midi de roi aujourd'hui, de roi, de reine, de prince et de princesse. En ce dimanche après-midi, on vient d'assister à la victoire d'un Français dans la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alex Bodin s'est imposé, Paul Sexa c'est dans le coup évidemment pour la victoire finale, mais ce sera la semaine prochaine. Et nous allons maintenant vivre à la fois le Grand Prix de Monaco et la finale de Roland-Garros qui débutera dans une vingtaine de minutes. Tout de suite, direction la Principauté, le port, ses yachts, ses bimbos. Et son roi, le roi en principauté, c'est Jean-Luc Roy qui va donc te commenter ce Grand Prix de Monaco qui ne va pas tarder à s'élancer sous un soleil franc, massif. Tout est réuni pour assister à un grand spectacle, on l'espère évidemment. Salut Jean-Luc.
Oui, salut mon Chris et bonjour à tous. Effectivement, un circuit de 3,337 km, le plus court de la saison, qu'il faudra donc parcourir à 78 reprises. Et c'est l'exception évidemment dans le championnat aussi, tu le sais, la longueur de la course n'est que de 260 km. Alors, on revient sur la grille rapidement avec, tu l'évoquais, Kimi Antonelli, le jeune Italien de Mercedes, le leader du championnat du monde avec 43 points, qui a signé une pole extraordinaire, juste devant Max Verstappen. Alors, ce qui est formidable, c'est que Verstappen était excité comme une puce lui aussi parce qu'il a retrouvé une Red Bull qui correspond à ce qu'il aime, et c'est le cas de Lewis Hamilton avec la Ferrari qui part de la deuxième ligne aux côtés de Charles Leclerc. Charles qui l'avait emporté, on s'en souvient évidemment, en principauté, premier vainqueur monégasque en principauté. Derrière, sur la troisième ligne, on aura Isaac Hadjar avec l'autre Red Bull qui a fait une très belle qualif également, avec George Russell lui en revanche en demi-teinte, et puis les deux McLaren qui repeignent la quatrième ligne en orange avec Piastri devant Norris, et enfin Gasly sera lui aussi sur la cinquième ligne avec Lawson à ses côtés. Les pilotes se rangent maintenant sous les ordres du starter. Je continue direct, hein, mon Chris.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, les tennismen ne sont pas encore arrivés sur le central de Roland-Garros. Donc, tu as toute la place que tu veux, mon Jean-Luc.
C'est formidable. Alors, les derniers pilotes sont en train de se positionner sur la grille. Le fond de grille, eh bien, il est assuré par les Aston Martin, malheureusement, de Fernando Alonso et Lance Stroll. A signalé d'ailleurs qu'Adrian Newey, le génial concepteur, malgré tout, elles vont revenir, les Aston, tôt ou tard, eh bien, est venu à Monaco. Il n'était pas venu depuis très longtemps. Voilà, les feux vont s'allumer maintenant. Les pilotes sous les ordres du starter. Attention au départ. 148 mètres seulement sur le jusqu'au freinage de Saint-Devote. Et évidemment, il va falloir s'imposer. On sait que les Ferrari sont extrêmement rapides dans les premiers mètres depuis le début de la saison. Est-ce qu'Antonelli va maintenir son avantage? Pour le moment, oui. Oh là là, avec un mauvais départ, très mauvais départ. Un problème pour Verstappen qui restait scotché. Alors que derrière, Antonelli est bien parti effectivement devant les deux Ferrari qui ont jailli de... Heureusement, apparemment, personne n'a percuté Verstappen qui a connu un terrible départ, un départ totalement raté. Est-ce que c'est un problème technique? On sait que maintenant la procédure de départ est extrêmement complexe à bord de ces monoplaces avec la nouvelle réglementation. Il y a toute une procédure très précise à enclencher. Malheureusement, c'est au détriment des pilotes très souvent. En tout cas, Kimi Antonelli est parvenu à déjà relever le deuxième défi du week-end monégasque après sa pole position, cette magnifique pole position. Voilà, apparemment Verstappen a réussi à s'élancer très tardivement. Et ben, on va avoir droit à une remontée apparemment, hein, parce que je peux te dire que on peut lui faire confiance, même si évidemment ça va être compliqué. Là, c'est toujours très difficile de dépasser, on le sait, dans les rues étroites de la principauté de Monaco. Les leaders négocient maintenant la chicane du port, et puis on est parti déjà vers les S de la piscine, extrêmement rapide, extrêmement impressionnant, qui se négocie à 250 km/h. Après, il y a un freinage en courbe très délicat qui mène au fameux virage de la Rascasse, et puis voilà les leaders qui vont déjà boucler le premier tour avec Kimi Antonelli devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Hadjar est un très bon quatrième devant Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson, ouais, et Albon. Verstappen est donc 22e et dernier.
Incroyable ce qui s'est passé pour Max Verstappen. Je viens de revoir les images au ralenti. On a l'impression qu'il démarre et qu'il cale ou qu'il s'est trompé de vitesse. Enfin, c'est très étonnant. Il a réussi quand même à ranger sa monoplace sur le côté gauche avant de repartir. Mais c'est très. On a l'impression qu'il a calé. Qu'il a calé. Je ne sais pas si ça peut être le cas. Mais en tout cas, c'est déjà fini pour lui, hein. Aucune chance de s'imposer, même si c'est un virtuose.
Ben, le problème, c'est ce que j'évoquais à l'instant, Christophe, c'est que maintenant, la procédure est tellement complexe. Il y a tout un tas d'opérations. Les pilotes, ah, le voilà qui s'arrête au stand à Verstappen, a priori. Oui, mais non, je pense que c'est rédhibitoire, là.
D'accord.
Malheureusement, ça va être l'abandon. C'est bien dommage, hein. Ça va nous priver d'une belle bataille. On l'attendait, cette bataille entre Verstappen, Antonelli et les Ferrari. Eh bien, voilà, j'y reviens. Le règlement est tellement complexe maintenant, surtout cette année. Donc, on a fait des va-et-vient pour essayer justement de je dirais pas de faciliter, mais de rendre moins compliqué le départ pour les pilotes, puisque même eux sont parfois passagers de la voiture. Hein. Ils ont beau exécuter la procédure et on peut évidemment leur faire confiance. Voilà, oui, c'est le renoncement. Ah, ça doit être une terrible déception pour Verstappen, qui évidemment s'était imposé ici, tu le sais, en 2023 et en 2021. Mm-hmm. Eh bien, le voilà privé d'un bon résultat. Alors évidemment, on va analyser ce qui s'est passé. Mais tu sais, il y a tellement de gremlins dans ces monoplaces. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour Norris également, en essai, hein, où la McLaren s'est arrêtée à la chicane du port, sans prévenir, sans rien du tout. Privé totalement d'électricité. Et McLaren a tout changé par précaution pendant la nuit, sans savoir véritablement d'où venait le problème. C'est un peu la crise à ce niveau-là.
Et pourtant, Red Bull a vraiment fait des progrès. Verstappen le disait d'ailleurs avant cette course. On est content que nos techniciens, nos ingénieurs aient réussi à rattraper le retard. C'est vrai qu'ils étaient tout proches de la pole hier. Et puis là, dès le départ, la mésaventure de Max Verstappen, qui ne peut pas défendre ses chances et qui est contraint à l'abandon dès les premiers tours de ce Grand Prix de Monaco, qui est donc pour l'instant dominé par Kimi Antonelli, le jeune Italien de la formation Mercedes, qui va tenter une nouvelle fois de remporter un Grand Prix supplémentaire. Celui-là, c'est vraiment un phénomène, hein, Jean-Luc. Il est bon partout, il est bon en course, il est bon dans les qualifs. Il a quand même réussi à battre tous les cadors hier dans les dernières secondes de la qualif. C'est un sacré phénomène que ce petit Antonelli.
Ah oui, vraiment, c'est une étoile plus que montante. Hein. Déjà, il a réalisé un début de saison absolument époustouflant et ébouriffant. Là, évidemment, à Monaco, on l'évoquait, le fait de partir de la pole, c'est déjà une option. Ensuite, de se maintenir, alors qu'il a eu des problèmes, hein, depuis le début de la saison. Je l'évoquais aussi, pas des problèmes lui, mais des problèmes pour les Mercedes, pour s'élancer dans de bonnes conditions. Et bien là, ça a bien fonctionné. Il avait moins de 150 mètres pour contrôler la course. Et les deux Ferrari qui ont jailli vraiment comme des balles de la deuxième ligne ne sont pas parvenus à passer devant. Et là, a priori, avec le rythme en course, hein, il a déjà creusé un écart de 3 secondes et demie en 4 tours. Donc là, c'est vraiment un gouffre. Elle a l'air impeccable, la Mercedes. On va voir Russell, lui, il est que 5e pour le moment. Et déjà à près de 10 secondes du leader. Et alors que les deux Ferrari également sont séparés par une seconde deux pour le moment. Bon, ce Grand Prix de Monaco avec un seul arrêt au stand, vraisemblablement. On est parti, pratiquement tout le paquet est parti en pneumatique médium. Donc, il y aura un arrêt aux alentours du 32e au 35e tour sur les 78 tours à parcourir dans ce Grand Prix.
Voilà, et Antonelli qui a donc creusé les écarts sur les deux Ferrari qui, pour l'instant, se contentent des deux et troisième place. Adjar est quatrième pour l'instant après quatre tours parcourus dans ce Grand Prix de Monaco. On y revient dans quelques instants avec toi, Jean-Luc, mais on va aller faire un petit tour juste pour prendre et humer l'atmosphère du central, parce qu'évidemment à Monaco on est avec du beau linge, mais à Roland-Garros également. Eric Salio a sorti son Bermuda de compète avec Florent Serra à ses côtés pour nous commenter cette finale homme qui devrait débuter dans un petit quart d'heure. Bonjour les garçons.
Salut Christophe, salut à tous.
Salut Christophe, bonjour à tous. Il est pas en Bermuda, il a sorti un beau pantalon et une belle chemise.
Oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mon Eric?
Je pensais pas qu'il ferait aussi beau et je le regrette. Tu sais que ça, on se croirait dans un stade de foot parce qu'ils ont craqué des fumigènes.
Ah ouais,
à l'issue du spectacle de Benjamin Millepied, et ça sent très mauvais. Ouais. Hein. Moi je suis très gêné là au moment où on se parle. Des fumigènes bleu, blanc, rouge évidemment. Non, ça a été salué par le public. Tu as raison, ça va dans quelques minutes. Maintenant les deux joueurs vont rentrer sur le central. Cette fois-ci, les conditions de jeu, Flo, par rapport à hier, sont vraiment nickel. Hein. Beau soleil, pas de vent. On va se régaler, on l'espère.
C'est peut-être la meilleure journée d'ailleurs, Christophe, parce que entre les 35 degrés du début de tournoi où c'était vraiment dur, humide et tout, le vent qu'il y a eu la deuxième semaine avec un peu de pluie, là, franchement, c'est des conditions parfaites pour avoir en tout cas une belle finale.
Bon, ben on va se régaler avec donc cette finale et le grandissime favori se nomme Sacha Zverev. Va-t-il enfin décrocher une victoire en Grand Chelem, lui qui en trois finales disputées les a perdues toutes les trois. Mais aujourd'hui, il n'a pas le droit, de s'incliner. La pression, on en parlait ce matin, Eric, dans les grandes gueules du sport. La pression est entièrement sur les épaules de l'Allemand. Koboli, lui, va arriver certainement avec les jambes qui tremblent un peu parce qu'on ne dispute pas tous les jours une finale de Grand Chelem. Mais il n'a rien à perdre dans cette finale. On va vivre avec vous dans quelques instants l'entrée des joueurs sur le central, sur le court Philippe Châtrier. 15h11 sur RMC. On est également à Budapest pour le Final Four de la Ligue des Champions féminines. Tout à l'heure, la finale avec l'équipe de Metz qui tentera de décrocher son premier titre. Et là, c'est la petite finale qui a lieu en ce moment avec une autre équipe française, Kevin Morand. Brest qui a perdu hier face à Győr et qui va tenter d'arracher la médaille de bronze face à Bucarest. Oui. Salut Kevin.
Salut Christophe, salut à tous. C'est parti depuis 10 minutes ici dans ce MVM Dôme de Budapest et les Brestoises sont menées 6-4 par le CSM Bucarest, les Roumains qui avaient été battus hier par Metz pour donc la qualification des Lorrains en finale tout à l'heure, et les Brestoises qui ont évidemment été très déçues hier, qui ont un début de match compliqué là évidemment. C'est difficile de se remettre dedans après l'énorme déception d'avoir perdu d'un petit but seulement en toute fin de match face aux double tenantes du titre hongroises de Győr. Donc 6-5 maintenant après 10 minutes de jeu ici à Budapest dans cette petite finale.
Et la grande finale, ce sera pour quelle heure, Kevin?
C'est à 18h.
18h. Donc
avec Metz-Győr qui promet beaucoup.
Ouais, Metz face au régional de l'étape. Hein, Győr, ce sont des Hongroises évidemment, ce sont les tenantes du titre, elles sont favorites. Mais sait-on jamais avec ces Messines qui nous régalent depuis des années maintenant. Il est 15h12, toujours Antonelli en tête du Grand Prix de Monaco. On vous rappelle l'abandon de Verstappen, Hamilton, Leclerc sont juste derrière. L'Italien Adjar, le premier français, quatrième. Il est 15h12, on revient dans quelques instants. Finale de Roland-Garros et Grand Prix de Monaco au programme. Je vous rappelle qu'Alex Baudin, le français de l'équipe IF, s'est imposé tout à l'heure dans la première étape du Critérium du Dauphiné. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Il est 15h16, vous êtes sur RMC, après-midi royal sur RMC avec le Grand Prix de Monaco et la finale des internationaux de France. Nous repartons tout de suite sur le central Philippe Châtrier, à l'heure où les deux joueurs, les deux finalistes vont entrer sur le court. Florent, Eric, c'est l'heure, c'est la grande heure pour les deux garçons qui n'ont jamais remporté le moindre tournoi du Grand Chelem.
Oui, c'est imminent puisque actuellement c'est le petit clip vidéo qui est diffusé sur l'écran géant et ce qui sert aussi de bâche, hein, c'est très réussi, c'est la signature de Roland Garros, Move the Lines, c'est en anglais, hein, parce qu'on le sait, Roland Garros est international, à gauche on a la victoire appartient au plus opiniâtre et à droite, victory belongs to the most tenacious, voilà. On se sent bien, on est à Paris, mais pas tout à fait à Paris, hein, Flo. Et là, c'est imminent, donc l'entrée sur le court. Le premier à monter les escaliers, et là, le cœur doit battre la chamade, Flo. Là, c'est le moins bien classé, c'est Flavio Koboli.
C'est tout neuf. Et là, pour Flavio Koboli, tout nouveau. Bon, il a déjà monté les escaliers, mais là, c'est pour jouer le dernier match du tournoi.
Ce qu'il n'a pas fait vendredi, puisqu'on rappelle qu'il est gagné par forfait. Alors, il est venu quand même taper la balle.
Le premier joueur entré sur le court est 12e mondial. 3 titres en carrière. C'est la première fois qu'il est en finale d'un grand chelem. Il est italien, Flavio Koboli.
Avec l'accent, Marc Maury, il est parfait.
Ah, il est bon. Il a fait des blancs vêtus aujourd'hui, italien, Marc.
Et donc, il a à sa droite une petite une fillette qui lui tient la main. Et donc il s'installe sur le premier fauteuil, hein, Flavio Koboli. Je ne sais pas s'il y a de la superstition, parce qu'il y a le choix, hein. Il aurait pu aller un peu plus loin à la droite de l'arbitre. Il prend le premier fauteuil, il pose son petit sac. Et c'est au tour de Sacha Zverev maintenant, qui lui, je peux te dire, a les écouteurs. Alors, ils ne sont pas sur ses oreilles, les gros écouteurs là. Et ça y est, c'est à son tour. Il sait ce que c'est, hein, ce chemin. Il l'a déjà fait il y a 2 ans. Monter les escaliers, c'était contre Alcaraz. Défaite en 5 manches. L'une de ses 3 défaites en finale. Et là, c'est un moment très important pour lui. J'ai pas peur de le dire, je pèse mes mots, c'est le match le plus important de sa carrière. À 29 ans, s'il ne gagne pas ce chelem, il ne s'en remettra peut-être jamais.
Oh, comme tu y vas, Eric. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi.
En tout cas, c'est une belle occasion, en tout cas.
Ah bah, celle-là. Allez, on écoute.
Dans Tunisie, Roland Garros, le champion olympique de Tokyo, l'allemand Alexander Zverev.
Un petit signe de la main gauche pour le public. Belle ovation pour Sacha Zverev. Pas beaucoup de drapeaux allemands aussi, j'en vois un ou deux quand même dans le stade. Le dernier à avoir gagné Roland Garros, bon, il est décédé, c'était en 37.
Ah, j'ai vu ça.
4 ans plus tard dans la bataille de Stalingrad, hein, le passage. Hein. Bon, pour l'anecdote. Mais le dernier allemand à avoir gagné un chelem, Christophe, c'est boum boum Boris Becker. C'était à l'Open d'Australie.
Ah oui.
96.
Voilà. Ah oui, ça commence à dater un peu tout ça.
C'est ça qu'il y a.
Boum, on l'a connu tout petit, mais ça fait un moment qu'il est plus tout petit.
C'est Damien Dubussois qui sera l'arbitre de cette rencontre. Hier, c'était Monsieur Gabas. Et donc, on salue la qualité de l'arbitrage français, Arnaud Gabas, qui a officié pour les dames. Et donc, c'est Damien Dubussois qui va procéder au TOS.
Très bien, messieurs, on vous quitte quelques instants. On va vite faire un petit détour par la Principauté de Monaco. On a l'impression qu'il y a déjà plus beaucoup de suspense dans ce Grand Prix de Monaco, même si Hamilton, Jean-Luc, se rapproche quelque peu d'Antonelli, mais il est à distance respectable quand même, hein, le pilote anglais de l'Italien.
Oui, tout à fait, Christophe. L'écart s'est réduit quand même entre Antonelli, le jeune pilote italien de Mercedes, le poleman, toujours en tête de ce Grand Prix avec 3 secondes 7 d'avance sur Hamilton. Mais Hamilton a refait une petite partie de son retard. L'écart était monté à 4 secondes et demie tout à l'heure. Donc il grignote. Dans son sillage, il y a Charles Leclerc, mais à bonne distance quand même. Il a 4 secondes et demie de la Ferrari qui le précède. Donc une Mercedes, deux Ferrari. Ensuite, eh bien, c'est la Red Bull d'Isaac Hadjar qui est bien esselé lui aussi, alors que George Russell tente de le rejoindre maintenant avec la deuxième Mercedes. Et puis Piastri et Gasly. Gasly qui est sous les assauts maintenant derrière de Lando Norris, 8e.
Très bien, on revient vers toi dans un instant. Il est 15h20. On va en faire un tour à Longchamp également pour le quintet du jour. Et c'est avec Dimitri Blanc-L'Œil. Salut Dimitri.
Salut Christophe, bonjour à tous. Nos dragsters à nous, c'est des chevaux, hein, avec le numéro 10, la Mandala, qui a gagné le quintet du jour à l'instant même. Code final 8,50€ associé à Christophe Soumillon. C'était sur 1400 mètres. Hein, la distance, vraiment, il n'a pas laissé de place au doute. Hein. Entrée ligne droite, on sentait qu'il avait beaucoup de gaz. Il a gagné devant l'As Tortizambert, qui était le favori de cette épreuve, qui tient très bien son rang. La troisième place pour le numéro 2, Alem. Devant le numéro 9, qui prend la quatrième place, c'est Talentuoso. Et le 6, Ten Horns, qui vient compléter l'arrivée provisoire, voilà, du quintet du jour. 10, As 2, 9 et 6. Vraiment une arrivée de favoris. Hein. Je crois même que c'est peut-être les 5 favoris aux 5 premières places, ce qui n'est pas souvent le cas dans les grands handicaps, en tout cas au galop. Tout ça est très provisoire. On attend que ça soit définitif et on se revoit à 16h, voilà, pour l'arrivée définitive et les rapports de ce quintet. À tout à l'heure, Christophe.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri, 15h21 sur RMC, à l'heure où Zverev et Kovalev sont en train de s'échauffer sur le central avant le début de cette finale, à l'heure où Antonelli pour l'instant est en train de gérer comme un prince le Grand Prix de Monaco. On fait un petit détour également par le hand, la petite finale de la Ligue des Champions féminines. Brest va-t-elle, les Bretonnes vont-elles récupérer une médaille de bronze? Eh bien, on voit ça avec Kevin Morand. Kevin, où en sont les Brestois?
Et après 19 minutes de jeu, toujours cet écart de 2 buts en défaveur des Brestoises, 11 à 9 pour les Roumaines du CSM Bucarest. Donc après quasiment 20 minutes dans cette première période, les Brestoises pour l'instant qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à repasser devant au score dans ce début de match.
Merci Kevin. Un petit détour également par le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec donc la première étape qui s'est disputée tout à l'heure avec la victoire d'un Français, Alex Baudin, qui s'est imposé vraiment avec un magnifique numéro. Jérôme Coppel est toujours avec nous. Jérôme, on a quelques instants pour revenir sur ce très beau succès. C'est le premier succès majeur de Baudin qu'on a vu régulièrement en tête dans les courses, mais qui avait du mal jusque-là à concrétiser. Là, c'est le plus beau succès de sa carrière et il le doit qu'à lui-même. Hein.
Il le doit qu'à lui-même, c'est ça, qu'à lui-même et qu'à son courage. Il fait partie de cette catégorie, alors de baroudeur, mais c'est quand même un coureur qui grimpe très bien. Alors on le connaissait plutôt un peu puncher. Il a fait sixième de la Flèche Wallonne, mais depuis qu'il est passé chez Education First, on sent qu'il a vraiment progressé en montagne aussi, parce qu'aujourd'hui c'était pas l'étape la plus dure du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'était la première, plus de 3000 mètres de dénivelé, donc c'est déjà une vraie étape de costaud. Alors, il a fait toute la journée à l'avant, il a réussi à épailler tous ses compagnons d'échappée et à résister au retour des favoris. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attaque entre les favoris au classement général, les Sexas, Ayuso, Del Toro. Ça lui a servi bien sûr, mais il fallait marcher pour pouvoir garder un petit matelas d'avance à l'arrivée. Donc il gagne avec 32 secondes d'avance, il prend tous les maillots, journée parfaite pour le Français.
Alors journée un petit peu moins parfaite, mais enfin il n'y a pas non plus péril en la demeure pour Paul Sexas, hein, qui est très attendu sur ce tour. Tout le monde s'attend à ce qu'il s'impose après ce début de saison qui a été particulièrement réussi. Paul a géré tout au long de la journée, mais mais s'est fait un peu coincé, un peu piégé sur la toute fin de l'étape. Et du coup, bah, il est arrivé avec un peu de retard. Combien? Une grosse dizaine de secondes derrière un groupe d'outsiders.
Ouais, 12 secondes exactement derrière un petit groupe de 9 coureurs. Alors dans ce groupe de 9 coureurs, il n'y a pas des énormes favoris, mais on a quand même Kevin Vauclin et Oscar Only de Net Company Neos qui font partie des outsiders, peut-être pas des favoris. Donc il s'est pas fait piéger par Del Toro et Ayuso qui sont ses deux principaux adversaires pour le classement général. Donc oui, il a perdu un petit peu de temps, mais dans ce groupe-là, en fait, ça a été plutôt un mouvement de course et il y a 9 coureurs qui sont partis et lui, il avait Léo Bisio, son jeune coéquipier qui vient prendre la 3e place. Donc après, s'est trouvé un petit peu coincé, il pouvait pas relancer et comme je l'ai dit, ses deux gros adversaires étaient encore avec lui. Voilà, il y a pas le feu du tout, il a perdu 12 secondes sur Vauclin et Only, mais dans une semaine ça pèsera pas lourd quand ils arriveront au plateau de Solaison dimanche prochain.
Bon, ben on verra ça. Vauclin, attention quand même, c'est un client, même si il a pas eu toujours beaucoup de chance cette saison, mais il est là et il est fidèle à son rendez-vous et on le suivra lui aussi. En tous les cas, magnifique succès. On n'arrête plus les coureurs français, Jérôme, c'est incroyable. C'est cette saison en 2026. Hein.
C'est dingue. Alors c'est vrai que c'est souvent des cycles. Hein. Des fois c'est les Espagnols, les Italiens, les Colombiens, etc. Les Français, c'est un peu rare qu'on domine autant sur le circuit World Tour. Hein, je parle parce que c'est vrai que les courses d'autres divisions, on a toujours été là. Mais là, on a eu Paul Magny au Giro qui a gagné 3 étapes. Axel Laurence, Kevin Vauclin qui a pas forcément gagné mais qui est toujours là. Alex Baudin, voilà, c'est les coureurs français pour l'instant. Bah, on peut le dire, mais dominent le peloton mondial.
Bah c'est magnifique, pourvu que ça dure et pourvu que ça dure au moins jusqu'à la fin juillet. C'est tout ce qu'on demande. Merci mon Jérôme.
C'est clair.
Demain, deuxième étape de ce tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai du mal à le dire. Et puis la troisième étape, lundi, ce sera le contre-la-montre par équipe. Très intéressant à suivre puisque vous le savez, la première étape du Tour de France sera également un contre-la-montre par équipe. Merci Jérôme Coppel. On retrouvera tout à l'heure Maria Azé avec les réactions de Baudin, les réactions de Sexas et autres Vauclin. Donc tout va bien pour les Français. 15h25. Bon, il n'y a pas de Français à Roland Garros, ça fait longtemps qu'on le sait, mais il y a un Italien et il y a un Allemand, donc vive l'Europe, hein, messieurs Salio et Serra.
Ouais, bah comme l'an passé, hein. L'an passé c'était un affrontement italo-espagnol. C'est vrai que les Américains ont beaucoup de difficultés à Roland Garros depuis très longtemps. C'est une chasse gardée des Européens, Flo, hein. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque depuis assez longtemps. Maintenant, il y a même les Sud-Américains, ils ont du mal. Ouais, il y a eu Fonseca, mais Fonseca n'a pas pu aller plus loin que le quart de finale.
Ouais, puis les Argentins aussi, il en manque par rapport à une certaine année où on avait Gaudio, Mondel Potro, c'était sur dur qui s'est imposé à l'US Open, mais bon, de toute façon, avec un gars qui a gagné 14 fois, ça aide, hein, de garder le trophée en Europe, en plus sur la terre battue. Mais c'est sur des très bons terriens aussi, les Italiens. Eric, tu vas voir, vous allez peut-être le découvrir, ce Comolli, joueur assez puissant du fond, Tony, qui va tout de suite mettre de l'intensité.
Ouais, c'est Flavio Comolli qui va servir, donc Damien Dubuçois.
Choisi de relancer, c'est fou ça. C'est Sacha qui a choisi de relancer. Lui qui aime bien faire la course en tête. Il me semble que c'est lui.
C'est un choix. On va voir si ça va porter ses fruits. Donc, coup d'envoi de cette finale 2026 de Roland Garros. Dans quelques secondes, vous avez l'ambiance. Ne quittez pas RMC, vous allez vous régaler parce que ça va être long. Ça va être très long. Pas aussi long que l'an passé, mais ça va être long.
Ah oui,
je suis pas sûr.
3h37.
À 3h37, j'en ai rêvé, même parier sur la durée de la finale.
Bon, première faute de Fabio Comolli, 0-15. Ils se connaissent bien, Flo, hein, puisqu'ils se sont joués.
Il n'y a pas longtemps,
deux fois,
à Munich en plus.
Deux fois en 5 semaines, puisqu'ils se sont joués le 18 avril à Munich en demi-finale. Et c'est Flavio Comolli qui avait créé la surprise sur les terres de Sacha Zverev, 6-3-6-3. Et Zverev avait pris sa revanche 12 jours plus tard à Madrid, donc en altitude, victoire 6-1-6-4. Mais c'est la cinquième fois qu'ils s'affrontent, il y a 3-1 Zverev. Et il s'apprécie beaucoup.
Ouais,
il s'apprécie beaucoup. Double faute de Comolli.
De toute façon, on va surveiller dès les premières frappes. Un petit peu de tension aussi, bien sûr, de Flavio Comolli sur le bras, sur les premières frappes. Le revers qui lui échappe en longueur. La double faute, toute petite double faute à 129 km/h sur la deuxième balle de service. C'est peut-être pour ça aussi que Zverev, hein, Eric l'a laissé, hein, l'expérimenté Alexander Zverev l'a laissé servir pour
d'ouvrir une finale de Schlem et peut-être ça va payer tout de suite par un break.
Le pronostic de Christophe ce matin serait déjà terminé.
Il y a des pronostics un peu bizarres parfois.
Comment ça?
On propose des choses bizarres. Mais pour l'instant, les deux joueurs n'arrivent pas à trouver le cadre, comme on dit. C'est trois fautes. une faute en longueur chez Cobolin, double faute, et une faute en longueur à l'instant de Sacha Zverev.
Du haut niveau pour ce début de finale quand même.
Hein. Oh, c'est 3 points, ça va aller, ça va se mettre bien sûr en route de toute façon. Forcément, il va y en avoir de l'attention, la faut pas la nier. Zverev en a aussi.
T'en mais... doute qu'il y a une crispation, c'est évident, on a parlé dans les grandes gueules du sport, on s'est un peu charpé avec, avec Julien Benneteau et Alizé Cornet. Il peut pas se rater. Il a pas le droit de se rater. On dit souvent, faut pas dire qu'il y a interdiction de perdre. Non. Il peut pas se permettre de rater cette finale, Sacha Zverev. Mais il prend en cure deux balles de break.
Et là, c'est très bien joué. Tout de suite, les angles trouvés par Sacha Zverev côté coup droit. Un angle assez court croisé avec une prise de balle assez tôt. Et cet angle va être important parce qu'il y a beaucoup de hauteur par rapport au filet. Elle rebondit énormément, cette balle. Et déjà deux occasions. Et il a essayé son kick, hein, Kobolik. Il a beaucoup essayé à l'entraînement hier soir. Je vous en parlerai un peu après parce qu'il va peut-être y avoir un break.
15-40, donc première balle de service dans le filet. Kobolik, qui depuis le début du tournoi n'a perdu que 10 fois sa mise en jeu. Il a 88% de réussite. Et peut-être que là, oh là, retour long de Sacha Zverev. Il n'a pas trouvé la distance encore et il s'en veut. C'était une belle occasion. 30-40. Il reste encore une opportunité pour Flavio Kobolik. Mais là, Zverev n'a pas montré quand même une grande confiance sur deux retours, sa frappe de coup droit.
De retour, il veut trouver beaucoup de longueur et de hauteur, sans forcément, avec beaucoup de trajectoire. Ça, c'est ce qu'il va essayer de trouver. On va voir Kobolik, si son service, il insiste sur le revers de Zverev avec un kick, tu sais, très court. Et sortant, il en a énormément fait à l'entraînement hier, puisqu'il s'est, il s'est entraîné pendant la finale d'âme sur le Suzanne Lenglen.
Ah, ça, c'était un scoop, ça. Je ne le savais pas.
Il va à plat, retour au centre.
On sent qu'il appuie très fort, Kobolik. Côté revers, c'est un maître d'homme. Zverev, pour l'instant, c'est une diagonale de revers qui s'installe. Et Zverev lui fait très mal. Il va peut-être pouvoir conclure. Non, il est patient. Impatient ou attentif, c'est comme vous voulez. Il avait l'occasion peut-être d'appuyer ses coups, mais il préfère entamer un long rallye. Et pour l'instant, et ben voilà, ben il aurait dû y aller. 40-1. Ouais. C'est le petit défaut, le petit péché mignon de Zverev. Parfois, il pourrait y aller, franchement, quitte à monter au filet, Flo, mais là, il a hésité.
Il monte de plus en plus au filet, mais c'est encore, tu sais, comme on fait l'entraînement physique, parfois, t'as l'entraîneur physique, il y a l'élastique, il te retient, tu vas vers l'avant, mais il te ramène. Mais Zverev, il a cet élastique, parfois, dans le dos. Mmh. Oui, il n'ose pas trop aller au filet, mais il a clairement affirmé ses intentions aussi cette année. On le voit sur les stats, hein, il y va assez souvent au filet maintenant, il n'hésite pas à venir conclure.
Moi, ça ne m'a pas marqué, personnellement. Mais
bon, il a des matchs en 2-7, une trentaine de montées au filet, quand même, qu'il ne faisait pas avant.
40-1, avec une bonne première balle de Kobolik qui, lui, va y aller. Le lob de Zverev qui est faute. Avantage Kobolik.
Non, il s'en sort bien, la Kobolik, avec deux balles de break contre lui. Finalement, il a l'avantage.
Il est courageux, et puis il a profité aussi de l'attentisme de Zverev.
Ouais, sur l'attaque de revers, alors qu'il en fait un assez tôt, d'ailleurs, qui était très bien parti. Il y en a un qui peut suivre un peu plus, et Kobolik a le mérite de tenir au fond. C'est lui qui a une balle de jeu cette fois-ci.
4 minutes de jeu. Première balle donc de jeu pour l'Italien Flavio Kobolik qui joue avec dos à la tribune présidentielle. Et peut-être qu'il l'a vu, il y a Adriano Panatta.
Oh là là, le retour chanceux de Zverev qui touche deux fois la bande.
Oh, ça, c'est terrible.
Et puis, et en plus, il était super loin au retour, donc l'utilité peut-être pour Kobolik, d'ailleurs, ce qu'il vient de faire sur ce service, le kick extérieur très court là pour le sortir. Et là, il s'en est fallu de peu.
Ouais, messieurs, on vous quitte quelques instants. On va juste faire un petit tour à Monaco parce qu'il y a une bagarre, non pas pour la première place, Antonelli est largement en tête, mais pour la quatrième place avec Hadjar qui est à la bagarre avec Russell qui lui met une énorme pression sur les épaules et sur les pneus arrière, Jean-Luc.
Oui, absolument, Christophe. Depuis un moment, Isaac Hadjar s'est plaint à la radio auprès de son ingénieur d'avoir des problèmes de boîte de vitesse, notamment pour gager le premier rapport. Et puis, on l'a vu également bloquer ses roues au freinage le plus important à la sortie du tunnel, le freinage de la chicane du port. Eh bien, il a des soucis. Manifestement, son rythme a baissé considérablement, hein, et Russell ne parvient pas à trouver l'ouverture. On l'a demandé, l'ingénieur aussi lui a dit, est-ce que tu as du rythme? Il a dit oui, facilement une seconde à une seconde et demie. Mais c'est évidemment le problème du tracé de Monaco, tu le sais bien, pour dépasser un adversaire. Et là, la Red Bull, elle est très très large, hein. Je peux te dire que il occupe tout le terrain, Isaac Hadjar, pour le moment. Alors est-ce que ces problèmes techniques,
élargir la piste à Monaco, hein, il y a du boulot quand même là, hein.
C'est un peu difficile là, oui. on peut en revanche, et on l'a déjà fait, réduire la largeur des monoplaces, mais ça suffit pas pour trouver l'ouverture en tout cas. Donc on voit que la Mercedes de Russell est manifestement beaucoup plus rapide pour le moment que la Red Bull d'Hadjar, mais Hadjar tient la rampe et on va l'arrêter le plus tard possible probablement pour changer les pneumatiques, hein, puisque là nous allons arriver au premier tiers de ce Grand Prix. On est dans le 24e des 70 18 tours. Et tu l'évoquais, eh bien Antonelli est largement en tête. Il contrôle tranquillement, je dirais, la situation avec plus de 8 secondes d'avance sur la Ferrari d'Hamilton, qui lui-même compte maintenant 5 secondes 8 d'avance sur l'autre Ferrari, celle de Charles Leclerc, le local de l'étape, hein, le Monégasque, qui précède donc Adjar. Alors tiens-toi bien, de 20 secondes, c'est un véritable gouffre, hein, alors qu'on a couvert que 24 tours. Donc c'est dire que le rythme de la Red Bull d'Adjar est vraiment très très long pour le moment, mais il retient la Mercedes. Et derrière, eh bien l'autre McLaren, la première McLaren plutôt, celle de Piastri, est sixième à 4 secondes 8 exactement de Russell. Et puis on a Gasly qui tient toujours l'autre McLaren, celle de Lando Norris, qui essaie lui aussi de le passer mais qui n'y parvient pas. Donc Norris est 8e. Et pour terminer dans les points, eh bien on a Lawson 9e et Albon 10e pour le moment devant Sainz. Du côté de Ocon, eh bien on est 15e et on s'est arrêté pour changer de pneumatique il y a 14 tours.
Parfait, merci Jean-Luc. On repart à Roland-Garros. On est toujours dans le premier jeu. Ouais. Cette fois-ci, l'avantage est pour Zverev.
La troisième balle de break, elle est sauvée. Sauvée d'un service gagnant à 212 km/h. C'est un jeu, non pas interminable, mais on est quand même à 7 minutes déjà, Flo.
Écoute, c'est un bon premier jeu pour se mettre en route. Hein. Ouais. Physiquement, au moins, ils sont dedans tout de suite. Koboli essaie de mettre beaucoup d'intensité. Zverev est plutôt assez patient. Il est assez loin. Assez loin, lui qui prenait plutôt tôt dans ce tournoi, là, il est loin. Dès le retour d'ailleurs.
Et donc dans le dos de, je sais pas si vous en avez parlé, dans le dos de Koboli, il y a Adriano Panatta qui remettra le trophée. Il a gagné il y a 50 ans.
On l'avait invité pour Sinner, c'est ça, non?
Bah, oh, non, c'était attention,
une mauvaise amortie.
Belle volée de Zverev. C'était des scrims là. C'est un échange au filet, nouvelle balle de break pour Sacha Zverev. Bon, en fait, non, ça fait longtemps qu'on sait qu'il va remettre le trophée, puisqu'on fête les 50 ans de sa victoire. Mais la scène cocasse, c'est qu'il devait remettre le trophée à Rome. Et en fait, comme Sergio Mattarella, le président de la République italienne, est un passionné de tennis, il était venu au Foro Italico. Et c'est lui qui avait remis la coupe. Et ensuite, juste à côté de lui, Panatta avait dit à Sinner, t'inquiète pas, je serai à Paris, je serai là pour te remettre la coupe. Bon, bah, les plans ont été un peu bousculés à cause d'une canicule parisienne, mais peut-être que Panatta remettra le trophée à un compatriote. Nouvelle balle de break. Donc pour Yannick Sinner, on a rien été, mais là, ouais, une tranche, comme on dit, de Koboli, c'est le break. Break d'entrée pour l'Allemand.
Ça commence mal pour l'Italien, donc il se fait breaker dès le premier jeu de ce premier set, et ça va mettre Zverev évidemment en confiance dans cette finale. Donc le premier jeu qui a duré combien? Qui a duré 10 minutes?
8 minutes.
Très bien, on revient vers vous dans un instant. On repart à Monaco où Antonelli continue sa petite balade tranquille. Il est presque à 10 secondes d'avance sur Hamilton désormais, sur l'anglais de l'équipe Ferrari. Jean-Luc, on attendait beaucoup des Ferrari ce week-end à Monaco. Les premiers jours avaient été vraiment favorables à la Scuderia. Et puis hier, ça s'est un peu dégradé avec cette qualif. Ils n'ont pas réussi ni le premier ni le deuxième temps. Aujourd'hui, ils bénéficient de l'abandon de Verstappen. Mais ils sont loin, ils sont très loin d'Antonelli. Hein.
Ah oui, tu as raison. C'est même assez impressionnant de voir à quel point Kimi Antonelli parvient lui à gérer. Lui, il a aucun problème ni de frein. Beaucoup de pilotes se plaignent des freins qui lâchent. Certains ont même pris feu pendant les essais. Bon, Perez notamment, Bottas a eu des problèmes de frein aussi. Ils ont été assez nombreux. Leclerc se plaignait de l'inconstance de ses freins également. Eh bien, lui n'en a pas. Il a pas de problème de pneus non plus. Et on suit toujours les efforts. Hein. C'est vraiment là que tous les regards se portent sur Adjar, qui tient toujours la quatrième position. Mais alors il est à un rythme, il est terriblement lent. Il est une seconde et demie à deux secondes plus lent que les pilotes qui le précèdent, mais il parvient toujours à maintenir Russell. Et encore une fois, bah, c'est ça Monaco. Dans le passé, on va pas évoquer tous les pilotes qui sont parvenus à maintenir un adversaire beaucoup plus rapide dans leur sillage, mais il y en a eu des paquets, y compris pour la victoire. Alors Russell, il attend qu'une chose maintenant, c'est que Adjar évidemment fasse irruption dans les stands pour changer de pneumatique. Ça pourrait arriver maintenant dans quelques tours, puisque selon les prévisions de Pirelli, eh bien, c'est aux alentours du 32, 33, 35e tour maximum que les pilotes devraient changer. On est au 27e tour maintenant. Parce que là, en plus, Russell, il perd énormément de temps. Tiens-toi bien, il est à 41 secondes d'Antonelli. Donc, c'est un véritable gouffre. Alors, on a des écarts qui sont creusés. Alors, derrière, Piastri, du coup, revient un petit peu parce que le rythme d'Adjar est tellement lent que Piastri revient. Il n'est plus qu'à 3 secondes environ de la boîte de vitesse de Russell. Et puis, Gasly tient toujours Norris derrière lui. Hein. C'est impressionnant de voir voir cette Alpine avec un moteur Mercedes quand même qui tient derrière elle une McLaren à moteur Mercedes également, il faut le signifier. Quant à Ocon, et bien toujours 15e pour le moment. Je rappelle que lui s'est arrêté au stand pour changer de pneumatique il y a déjà un bon moment d'ailleurs.
Et on rappelle que Verstappen, lui, a dû s'arrêter dès le premier tour. Il a complètement raté son démarrage et ensuite a eu des problèmes. Il s'est arrêté définitivement après des qualifs magnifiques. Et bien, c'est terminé et ça s'est terminé très rapidement pour Verstappen. Toujours Anthony Lee en tête, 11 secondes d'avant sur Hamilton et 14 sur Leclerc. Les deux Ferrari qui, pour l'instant, font les poulies d'or de ce Grand Prix de Monaco. 15h38, détour par la Hongrie pour le Final Four de hand féminin, la petite finale entre Brest et Bucarest. C'est la mi-temps, Kevin Morand.
C'est la mi-temps et toujours cet écart de 2 buts en faveur des Roumaines du CSM Bucarest, 15 à 13 à la pause, donc dans cette petite finale.
Merci Kevin. Nous repartons à Roland-Garros. Zverev a donc breaké son adversaire d'entrée, Kobeli, qui va tenter de réagir et de débreaker. Nous sommes dans le deuxième jeu de cette finale, Eric et Florent.
Oui, et déjà deux balles de pour faire 2-0 pour Sacha Zverev qui sert remarquablement. Oh là, oui. Là encore, il vient de passer en première à 198 et Kobeli ne peut absolument rien faire. Ah, il l'a à peine touché. 2-0 pour Sacha Zverev qui m'a l'air très serein. Il faut dire que le break d'entrée sur le service de l'Italien lui a fait le plus grand bien, ça, Flo, parce qu'on sentait quand même un peu de crispation. Hein. Il avait raté un ou deux retours. Mais là, si tout va bien, il va pouvoir dérouler son jeu. Et c'est vrai qu'on constate qu'il appuie très fort, notamment côté coup droit. Il va falloir que Kobeli soit très très costaud en défense. Mais c'est vrai que cette finale démarre.
3h37, hein, tu nous as dit, Eric. Hein. C'est ça la longueur.
Ça peut être long. Moi, je pense que depuis le début, à chaque fois, je me dis que ça va faire 3-7. Mais ça sera donc peut-être un peu plus court. Mais là, il a du mal du fond de Kobeli. Il veut jouer des trajectoires aussi assez tendues. Et quand tu es tendu toi-même, justement, il prend pas mal le filet. On l'a vu en coup droit, tranche tout à l'heure, filet. Il est un petit peu tendu, forcément. Après, il faut qu'il arrive à se libérer. Zverev, sur son service, même quand il passe pas la première, je disais à Eric, t'as vu la deuxième, 185 km/h en seconde, c'est quand même impressionnant. Il s'est même fait un petit service volé, lui qui monte pas tant que ça au filet, donc il a l'air plutôt bien sur le début de ce match.
Et pourtant Kobeli, il a des supporters hein, qui sont venus d'Italie, puisque il y a au moins une trentaine, voire une quarantaine de fans qui sont habillés tout de bleu vêtus dans la tribune des joueurs. Ouais. Alors que vous savez que ce qu'on appelle la box des joueurs, c'est 16 places. Et là, je regarde la box de Sacha Zverev. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'amis, bien sûr. Ils sont que 8. Ils sont que 8. C'est dingue. Hein. Mais bon, vraiment, c'est le cercle rapproché. C'est le cercle rapproché.
Tu prends celle de Rodard, il est tout seul.
Il était tout seul, le père. Le coach, le papa, il faisait tout. Ils sont que 8. Mais bon, je pense qu'il y a aussi de la superstition. On a commencé comme ça, on finit comme ça. Donc 2-0 pour Sacha Zverev. Kobeli est au service. 15A. Le soleil est magnifique, il n'y a pas un pet de vent, ça c'est agréable.
Ça c'est bien aujourd'hui.
La plus belle journée de Roland-Garros depuis le début de la quinzaine. Il était temps, mais l'été arrive, il n'est pas trop chaud pour l'instant. 15h41, on revient vers vous dans un instant. Donc toujours 2-0 pour Zverev dans cette finale. Et un autre Italien, lui, va beaucoup mieux à Monaco, Antonelli, qui domine largement le Grand Prix de Monaco. 15 secondes d'avance désormais sur Leclerc, mais il y a eu un premier arrêt au stand. On verra ça dans un instant avec Jean Lécroix. À tout de suite sur RMC.
C'est Intégral Sport.
Christophe Cessier.
15h43. Sur RMC, vous avez fait le bon choix cet après-midi. Programme de choix avec le Grand Prix de Monaco et la finale de Roland-Garros. Un Italien sourit pendant qu'un autre est en difficulté, même s'il vient de marquer son premier jeu. Kobeli, qui n'est plus mené que 2-1 face à Zverev, Eric et Florent.
Ouais, on a senti beaucoup de soulagement, même peut-être même de libération quand il a lâché un coup droit gagnant qui lui a permis donc de débloquer son compteur. Effectivement, Fabio Kobeli n'est plus mené que 2-1, mais le problème, Flo, c'est qu'il a cédé sa mise en jeu d'entrée, donc il a un break de retard et ça va être dur à combler puisque les statistiques de l'Allemand, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont assez impressionnantes. Il a remporté depuis le début de la quinzaine 93% de ses jeux de service. Donc on va voir ce qui s'accroche. Hein.
Ouais, c'est sûr qu'il est jamais facile à breaker Sacha Zverev. Ça lui est arrivé hein, quand même quand un Alissi est parvenu, Mensik au troisième set. Mais bon, c'est vrai qu'il a beaucoup gros pourcentage de première et il est souvent très efficace derrière. Je l'ai dit sur la seconde balle aussi, il est efficace.
De la part de Zverev, ouais.
Oh, l'amorti, oh là, hein, il lui donne le point. Il fait une amortie au milieu du court et puis là, Kobeli n'a pas réussi à mettre ce coup droit dedans. Coup droit pénalty, Eric.
pourtant il avait tout compris, il avait attendu que l'Allemand parte à droite, donc il la met droit devant lui, mais il a sorti de 10 cm. Ça c'est très coûteux, c'est très coûteux parce que il aurait pu se retrouver à 0,15, mais là SVRF se trouve donc dans une excellente situation sur ce jeu de service. Mais c'est vrai qu'on voit la différence à l'œil nu depuis notre cabine entre la vitesse de balle au service de SVRF et celle de Koboli. Je ne veux pas dire que c'est un junior en face, bien sûr, parce qu'il envoie quand même à 180, mais c'est flagrant. Hein.
Sur les deuxièmes balles de service, oui. Par contre, il a servi à 129 tout à l'heure, 138, donc il est un petit peu tendu aussi. Il est capable de faire mieux au service parce qu'il est capable d'avoir beaucoup d'effets. SVRF, lui, en coup droit, est relativement prudent, mais quand il faut attaquer, il y va.
Oh là là, ouais, tu vois, c'est lourd.
Celui-là, à mi-court, il fait mal parce que là, il lâche le bras, il traverse ses frappes. Et on sent qu'il a cette volonté de vouloir même enchaîner vers l'avant pour prendre du temps à son adversaire. On voit Koboli s'agace déjà un peu. Ouais.
Vers son clan, vers son papa, donc qui est aussi son coach. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, il joue court. Ben, il faut qu'il joue un peu plus long pour se protéger parce que là. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu reculé, hein, parce qu'il a compris que ça servait très très bien en face. Donc il est très loin derrière sa ligne de fond de court pour recevoir les missiles de Zverev. Mais Zverev peut enchaîner en général derrière et débuter son entreprise de démolition entre guillemets. 30-15, elle sort, elle est dans le couloir. Il n'a pas l'air convaincu de l'annonce, Sacha. Mais bon, il se rapproche vers le carré de service. Il a vu la trace, donc il n'y a aucun souci. Damien Musso a dû le rassurer. T'inquiète, elle est faute, c'est sous mon nez. 30-15. Mais 2-1-30-15 pour Zverev. Attention. Il ne faudrait pas qu'il gâche ce très bon début de partie, l'Allemand, sur 2-3 bêtises. Mais en tout cas, il prend tout son temps. Hein. Il va au bout des 25 ouais. secondes. Là, il est à 7 secondes restantes, 6, et ça va partir. Pan, c'est lourd. C'est très lourd. Mais ça revient. Attention, l'échange s'installe.
Il est quand même assez proche de sa ligne. Sacha, là, quand il avance, tu vois, et c'est là où il fait mal. Pour l'instant, il fait plus mal. Il fait plus mal parce qu'il est dans le terrain. Le revers, il est assez tendu. Il le suit au filet. Il vient conclure au filet. C'est très, très propre le début de match. C'est surtout très juste au niveau des balles qu'il doit défendre, celles qu'il doit attaquer en avançant un peu plus. Pour l'instant, il cadre parfaitement le terrain, alors que Koboli, lui, est un peu plus loin. Il fait plus l'essuie-glace. Et quand t'es un peu tendu, ça aide pas.
Il fait un peu poids léger, hein, Koboli. Bon, il rend beaucoup de centimètres à l'Allemand. Mais c'est vrai qu'il dégage pas une puissance phénoménale. Mais c'est un garçon qui va très vite sur ses jambes. Et c'est pour ça qu'il a créé pas mal de surprises dans ce tournoi. Mais là, il est en grosse difficulté sur les retours. Ça vient tellement vite. Et là, Zverev va l'attaquer côté revers. Le passing, parfait. Un mauvais choix de la part de Zverev, ouais. Ouais. 40-30, attention.
Ouais, sur ce passing croisé, cette fois-ci, sur ce revers croisé, cette fois-ci, il doit aller plus le long de la ligne, c'est plus facile à couvrir derrière. Là, il a ouvert tout son passing long de ligne, justement.
Ah oui, il y a une place là, vas-y, mon gars. L'autre, il a saisi le
passing. Il est beau d'ailleurs. 40. Mais Koboli, tu vois, il a quand même un coup droit qui est très lourd.
Oui.
Il est capable de prendre tôt et de frapper fort. Il faut qu'il arrive à le faire d'un peu plus près pour l'instant, mais Zverev joue bien en hauteur aussi pour le repousser.
Bah, le 3-1, 40-30, 2-1, 40-30 pour Zverev. Et encore une première qui passe. Le retour est très profond cette fois. Là, il y a du dialogue qui s'installe avec un petit slice de revers de l'Italien. Oh, il trouve une ligne fantastique.
Quel coup droit.
Zverev dans la lucarne. Koboli va checker la marque. Mais oui, il a beau chercher, il trouvera pas de marque dehors. Hein.
Un peu comme celui de Koboli dans le jeu qu'il a marqué tout à l'heure. Il en a fait un sur la ligne, très lourd comme ça.
Il reste sur la marque.
Ouais.
Il dit, mais elle est où?
Il voit pas de marque.
Il tourne la marque toujours.
Non, mais si tu vois pas de marque, c'est que c'est quand même
souvent dessus. Voilà, ça y est, il l'efface. 3-1 Christophe pour Sacha Zverev. Ouais. Très très bon Zverev.
Il est très
après
bon.
21
pour l'instant, tout
jeu.
Va bien. Mais c'est peut-être dans la troisième manche qu'il mènera 2-7-0 et qu'il aura un break d'avance. C'est là qu'il peut craquer.
Oui,
Sacha Zverev, parce qu'on sait que c'est ce qui s'est passé par le passé, notamment sa première finale de Grand Chelem face à Dominic Thiem, où il avait vraiment les affaires en main avant de complètement craquer. On va pas lui souhaiter, évidemment, mais on espère
J'ai l'impression que tu le souhaites très fort.
Non, mais pas du tout. J'aime beaucoup Zverev. Non, il dégage pas une sympathie énorme, pour tout dire, mais bon, c'est un magnifique joueur.
Ouais, mais en interview, il est plutôt relâché. Hein,
Il peut être cassant. Je l'ai connu très cassant il y a quelques années. Quand une question ne lui plaisait pas, il renvoyait le journaliste dans ses 22. Mais là, il est zen, presque zen. c'est assez étonnant.
Attends, les planètes sont vraiment alignées parfaitement pour lui cette année à Roland-Garros, s'il ne gagne pas. Mais enfin, je pense qu'il est bien parti pour remporter ce tournoi. Donc, on en est à 3 jeux à 1 dans cette première manche. On revient vers vous dans un instant. Nous partons en Principauté, où un autre Italien lui va beaucoup mieux, Antonelli, qui se balade presque le coude à la portière de sa Mercedes, Jean-Luc.
Écoute, il faut pas exagérer parce que tu sais, c'est toujours pareil dans les rues de Monaco. Évidemment, les gens heureux n'ont pas d'histoire là comme ailleurs. Mais c'est vrai qu'Antonelli, il mène sa barque avec beaucoup d'autorité. Il compte donc 33 secondes d'avance exactement sur Hamilton. Alors on rappelle quand même qu'Hamilton est repassé par la voie des stands tout à l'heure, hein, lors du 29e tour. Et puis la mauvaise nouvelle pour Lewis, c'est que il va hériter de 5 secondes de pénalité parce qu'il a été trop rapide dans cette voie des stand. Tu sais que la vitesse est limitée à 60 km/h compte tenu de l'exiguïté des lieux, et donc il a dû aller un peu trop vite, et ces 5 secondes vont être appliquées à sa performance. Normalement, il n'y aura qu'un arrêt au stand. Ah ben voilà, j'ai l'impression qu'à l'instant, voilà, c'est Colapinto qui repasse par les stands, parce que évidemment, je te parlais d'Hamilton, mais Charles Leclerc également est repassé par la voie des stands un peu plus tard, lui au 36e tour, et donc on perd environ 24 à 25 secondes. L'écart entre les deux Ferrari, qui sont toujours pour le moment 2e et 3e. Ah, et voilà Antonelli. Alors, on va accompagner l'arrêt, si tu veux bien.
Bien sûr, bien sûr.
Arrêt au stand de Kimi Antonelli. Donc, ce sera, je le répète, le seul à l'issue de ce 37e tour. Donc, on est pile exactement, allez, à un tour près, on est pratiquement à la mi-course. Hein. Je rappelle qu'il y a 78 tours au total. Et puis, Russell a également un petit problème avec les commissaires, parce qu'apparemment, il a été un peu rapide lui aussi dans la voie des stands. Voilà, Antonelli, apparemment, va en ressortir déjà de cette voie des stands avec des pneumatiques dures, évidemment. La stratégie, elle est tellement claire. Tu te rappelles que l'an dernier, eh bien, la FIA s'était risquée dans une tentative grotesque qui était d'imposer 2 arrêts au stand à tous les pilotes pour essayer de créer du spectacle, soi-disant. Et puis, on avait assisté, évidemment, au fait que les deuxièmes pilotes s'arrêtaient quand il fallait pour retenir les autres derrière. Donc, la tentative avait été complètement ratée. Alors, cette fois-ci, on n'impose pas un deuxième arrêt. Donc, il n'y en aura qu'un, comme d'habitude, à Monaco, dans des circonstances normales. Et voilà, Kimi Antonelli, l'arrêt s'est bien passé, il ressort au bout de 24 secondes, impeccable. Et évidemment, il va avoir un boulevard d'avance sur Hamilton de l'ordre de 13 secondes. Derrière, on a donc l'autre Ferrari, celle de Charles Leclerc, qui lui s'était arrêté, je l'ai dit, au 36e tour. Lui, il a 13 secondes de retard, donc l'écart est exactement similaire entre Antonelli, Hamilton et Hamilton Leclerc. Derrière, eh bien, on a Oscar Piastri, mais lui ne s'est pas arrêté et il compte pourtant, tiens-toi bien, 15 secondes de retard sur Leclerc. C'est la première des McLaren. Derrière, on a Pierre Gasly qui est un excellent cinquième, mais qui ne s'est pas arrêté au stand également pour le moment. Il est à 7 secondes et demie de Piastri. Et puis l'autre McLaren, les McLaren vraiment en demi-teinte hein, sur ce tracé de Monaco, puisque Lando Norris, le champion du monde en titre, faut-il le rappeler, le porteur du numéro 1, eh bien n'est que 6e pour le moment, mais à près de 50 secondes du leader. C'est vraiment, et voilà, la pénalité tombe à l'instant, c'est bien 5 secondes pour Russell, comme pour Hamilton, c'est la sanction, fallait pas commettre d'erreur. Derrière, eh bien on a Russell, la manœuvre s'est bien passée pour lui, hein, puisqu'il s'est arrêté au 32e tour, Hadjar s'est arrêté au 33e, donc il a parfaitement réussi ce qu'on appelle, Christophe, l'undercut, puisqu'il n'arrivait pas à le passer sur la piste. Eh bien, l'équipe Mercedes a décidé d'arrêter Russell, a fait un très bon arrêt et il est reparti devant Hadjar. Et là, l'écart se creuse, hein, puisque tiens-toi bien, il y a déjà 12 secondes d'écart entre Russell 7e, Hadjar 8e, on a ensuite Lawson 9e et Albon, le dernier dans les points, est 10e pour le moment, Ocon est 14e.
Très bien, Antonelli donc toujours en tête avec 13 secondes d'avance sur Hamilton et combien, 25 secondes sur Leclerc, les deux Ferrari qui jouent placé dans ce Grand Prix de Monaco pour le moment. 15h53, un petit détour par le Mans avec les Brestoises qui veulent aller chercher la médaille de bronze de ce Final Four de hand féminin. Kevin Meurant, où en sont-elles?
C'est reparti depuis 1 minute 45 dans cette seconde période et les Brestoises avec toujours ces deux buts de retard sur le CSM Bucarest, 16 à 14 donc après 32 minutes de jeu dans cette petite finale, en attendant Metz tout à l'heure en finale face à Győr à 18h.
18h pour la grande finale et la première étoile peut-être pour Metz face aux grandes favorites hongroises de cette finale. 15h54, il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de vent, mais il fait un temps magnifique sur le central de Roland-Garros. C'est pour l'instant Théo également au beau fixe pour Sacha Zverev, Eric et Florent, les deux, oui. La petite paire magique.
Ouais, 4 jeux à 1 déjà pour Sacha Zverev. Vous avez compris qu'il y a, il y a déjà double break pour l'Allemand. C'est une sorte de force tranquille, hein, Sacha Zverev, sans forcer, et au contraire, Koboli commence à s'énerver, commence à surjouer. Donc les jeux défilent pour l'Italien, qui est en grosse difficulté. On va peut-être mettre ça sur le compte du stress, de l'anxiété, mais
il faut qu'il arrive à rester calme.
Il doit se dire, si Zverev joue comme ça, je vais pas avoir beaucoup de solutions.
Mais il faut qu'il reste calme, Eric, parce que je sais que c'est un joueur qui peut être super tonique, actif et tout, et on le voit assez émotif aussi d'ailleurs, hein, mais on voit qu'il force un petit peu sur son coup droit et qu'il arrive pas trop à faire des changements de rythme. Il insiste en puissance, donc en plus, il peut se fatiguer un petit peu. Et Zverev, lui, paraît un peu plus cool, paraît un peu plus relâché. Il arrive à jouer très haut, bombé avec son coup droit, venir un peu plus tôt agresser et jouer plus tendu. Et donc pour l'instant, c'est vrai qu'il maîtrise bien ce match, mais ça va aussi venir, hein, du côté de Koboli. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il panique.
Oui, faut pas qu'il panique. Bon, peut-être qu'au fond de lui, il se dit que le premier set est perdu. Bon, et encore, hein, 4-1, c'est pas totalement compromis. Mais il faut qu'il trouve ses marres. Faut pas qu'il s'énerve, effectivement. Et tout à l'heure, non, il sort un revers qui sort de.
Tu vois,
de
c'est tous les gestes là. Il faut pas tranquille. Et il est en train de se frustrer sur ses zones, sur s'il doit la frapper plus tendue ou mettre un peu plus d'effet. On voit qu'il fait des gestes à sa boxe et il parle un peu trop là.
Ah, bah, italien, écoute.
c'est vrai aussi, ça aide pas.
Mais Romain, tu sais qu'il a failli devenir footballeur professionnel. Hein. C'était un très très bon joueur et il jouait à la Roma. Et finalement, il a opté pour le tennis et il est licencié au Tennis Club de Parioli, l'un des nombreux clubs à Rome, hein, sur terre battue, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que les Italiens sont si forts sur terre, puisque ils ont quand même placé quelques mecs en deuxième semaine, hein, Berrettini, Arnaldi, Koboli. Bon, il manquait Cosina, bien sûr. Une petite faute en filet de Sacha Zverev, c'est peut-être trop facile pour lui.
Mais en attaque, une faute d'attaque, donc tout de suite il refait un peu le geste avec la main en disant bah passe un peu plus dessous. Bon, c'est pas bien méchant comme faute, mais faut les régler. Voilà, le fait d'avoir aussi 2 breaks d'avance, bon. Déjà quand il en a un, il est dur à reprendre. 2 breaks d'avance Zverev dans un set, s'il y est arrivé contre, tu parlais de Darderi à Rome, il a perdu ce match assez improbable d'ailleurs. En principe il perd pas un set, mais bon,
il reste quand même sur 6 défaites concédées face à 10 Italiens. Bon, ça c'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est à croire qu'il aime pas trop jouer l'Italien. Attention, le passing filet. Ah, attention Koboli, là il avait une belle occasion de se mettre à 15-40, mais il a pas été assez précis sur son passing de revers. 30 à Et Zverev qui vient tranquillement au filet. C'est vrai qu'il est en impose quand il monte au filet.
Ouais,
et tu as raison, pour l'instant, il doit être à 100% de réussite au filet, Zverev. Hein.
Ouais, il a eu d'ailleurs en allant plus tôt. Il a pris un passing tout à l'heure quand il s'est trompé de zone sur sa montée. Mais bon, il fait de bonnes volées assez propres. D'ailleurs, souvent quand il a des volées dures et tout, il volait très bien. Et parfois, c'est quand il réfléchit un peu, il a tendance à rater des volées. Là, c'est une grosse première, 213.
Et il impose. Il dit,
oh non, là c'est une faute d'attente. Par contre, il doit la mettre dedans, celle-ci.
Ça défile, balle de 5-1 déjà après 30 minutes de jeu. Il ne faudrait pas qu'on ait une finale à sens unique. Hier, on a eu une belle demi-heure chez les dames avant que Mira Andreeva ne prenne l'ascendant. Mais là, c'est d'emblée que Sacha Zverev se détache. Balle de 5-1, donc il est au service à 40-30. Et on va voir s'il passe la première. Non, cette fois-ci, elle passe pas. Bon, ça va faire baisser son pourcentage. Elle est sortie donc quand même d'un
80%,
bon mètre,
hein. Ça va.
Ouais, d'un bon mètre. Deuxième balle de service. Koboli est très très loin derrière sa ligne. Et donc, il va falloir qu'il retourne très profond. Sinon, il va se faire agresser. Parce que Zverev, quand il est les pieds dans le court, c'est. Oh là, grosse deuxième. Grosse deuxième.
202.
202. Et derrière, il va conclure. C'est fait. Jeu 5-1. 5-1 Zverev. C'est une démonstration, hein. C'est vraiment du.
Ça va vite, hein.
Non, Zverev.
Ça va vite, tout ça.
Et puis, ouais, non, mais du beau tennis au niveau tactique, pour l'instant, c'est vraiment très bien ce qu'il propose en repoussant son adversaire, en venant ensuite l'agresser. Et Koboli, qui va essayer un peu de trouver ses marques, dans l'optique probablement d'être mieux dans le deuxième set. Mais encore une fois, il s'agace un petit peu trop vite dans ce jeu aussi. Il se précipite.
Messieurs, 5 jeux à 1 donc pour Zverev dans cette première manche. Il déroule pour l'instant l'Allemand face à son adversaire italien. Antonelli lui aussi déroule à Monaco sur le Grand Prix de la Principauté. Il devance pour l'instant Hamilton de 17 secondes et un peu plus sur Charles Leclerc. Il est quasiment 16h. On fait une petite pause, les infos, et on revient pour quelques instants sur le Grand Prix de Monaco et la finale de Roland Garros. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
16h08, vous êtes sur RMC, on vit un beau dimanche après-midi, même s'il n'y a pas beaucoup de suspense, il faut bien le dire, sur les deux grands événements que nous suivons, à savoir la finale homme de Roland-Garros, où Zverev pour l'instant fait cavalier seul face à Koboli. Cavalier seul également pour un Italien, Antonelli, sur la Mercedes au Grand Prix de Monaco. On commence par le tennis, avec donc la première manche pour Zverev, qui s'est imposé 6 jeux à 1 dans cette première manche. Il va falloir que Koboli trouve des ressources, Florent Serra, Eric Salio, parce qu'autrement ça pourrait rapidement se terminer pour l'Italien qui dispute, on le rappelle, sa première finale d'un grand chelem.
Ouais. Et il faut souhaiter aussi que pour l'Italien, hein, bien sûr, que Sacha Zverev baisse un petit peu en qualité de jeu. Et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin puisque l'Allemand est au service et il mène déjà un jeu à zéro sur une accélération de coup droit qui a pris de vitesse Koboli. Hein. Il est à la rue, il faut dire les choses, hein, Flo. Hein.
Il est loin et c'est lui qui fait que courir pour l'instant. Zverev, encore une fois, arrive à trouver de meilleurs angles, mais parce qu'il est aussi un peu plus près, avec une belle hauteur de balle côté coup droit. Et ça, on s'en aperçoit pas forcément quand on regarde comme ça, mais quand on voit certains plans de caméra qui sont ras du filet, on voit comme elle passe très au-dessus du filet et comment elle rebondit. Donc il a un coup droit très lourd et Koboli parfois on le sent et il saute à la frappe pour aller la chercher, et pour l'instant il est dominé en cadence du fond également.
Et ta remarque est pertinente parce que lorsque Koboli a battu Sacha Zverev à Munich, Christophe, c'est presque du sable, c'est une terre battue ultra lente,
du schiste.
Donc ce jour, voilà, du schiste. Donc ce jour-là, je peux comprendre que Koboli ait su saisir sa chance. Mais là, que ce soit à Madrid, c'est avec l'altitude, et à Roland aujourd'hui, il fait beau en plus, la balle rebondit énormément. Il se régale, l'Allemand. Il a dû bénir des dieux.
Et encore,
la météo.
Parfois Munich, comme c'est à plus de 500 mètres aussi, parfois ça peut aller vite. Mais c'est vrai que la terre rebondit tellement moins. Elle est plus caillouteuse et elle boit beaucoup plus quand il pleut. C'est pour ça qu'on peut jouer aussi en Allemagne quand
les conditions sont plus lentes. Il s'est encouragé, là, Christophe. Ouais. Bravo.
En italien, en espagnol, il le fait. Parce qu'il se dit que c'est un peu la terre de Nadal, donc on va faire en espagnol, peut-être ça a porté chance. C'est trop jamais.
Vous connaissez l'anecdote, on la rappelle aux auditeurs, il y a quelques années, quand il prenait sa douche, il allait dans une douche qui était réservée à Rafa. Et un jour, Rafa toque à sa porte et dépêche-toi là, tu sais que c'est ma douche depuis 14 ans. Alors l'autre, il a dû se dépêcher très vite de se savonner, de se rincer. Désolé, Rafa. Et depuis, il se douche régulièrement dans cette douche.
Les superstitions des joueurs de tennis et des sportifs de haut niveau. On a eu un bel aperçu ce matin dans les grandes gueules du sport. Hein, si vous voulez réécouter la séquence, c'était savoureux. C'est évidemment en podcast sur le site d'RMC, 16h10, donc tout va bien pour Zverev, tout va bien pour Antonelli également, mon cher Jean-Luc Roy qui se balade à Monaco, Hamilton, Leclerc suivent, mais à distance vraiment respectable. Est-ce qu'il y a un peu de bagarre sur ce circuit de Monaco aujourd'hui ou pour l'instant c'est une promenade tranquille à laquelle on assiste, hein?
Alors écoute, on assiste surtout à une avalanche de pénalités, parce que là c'est Pierre Gasly, malheureusement, pour son unique arrêt au 46e tour, qui lui aussi a été pris en flag par la police. Donc excès de vitesse dans la voie des stands.
Les radars sont très sévères aujourd'hui à Monaco, hein.
Ah oui, 5 secondes de pénalité qui vont être appliquées à Pierre. Alors il est 7e pour le moment, ça va, il compte pour le moment 13 secondes d'avance sur Lawson, Liam Lawson, qui est au 8e rang, qui s'est également arrêté. Mais attention, parce que certaines équipes ont choisi de monter des pneumatiques soft, ça a été le cas effectivement pour Lawson avec sa Racing Bull. Donc a priori il pourrait être plus performant en fin de Grand Prix que de l'est Pierre Gasly. Et puis je répète que cet écart de 13 secondes va fondre, hein, va tomber à 7 ou 8 probablement. Donc il ne faudrait pas que Lawson soit en mesure de revenir sur Pierre pour lui dérober cette 7e position. Sinon devant, tu l'évoquais, bah oui, Kimi Antonelli, il converse un petit peu de temps en temps avec son ingénieur pour s'occuper, mais il a 23 secondes d'avance, c'est un gouffre incroyable sur la première des Ferrari, celle de Lewis Hamilton. Alors derrière quand même, attention, parce qu'entre les deux Ferrari, on pourrait avoir une explication de gravure là, puisque Charles Leclerc est en train de revenir. Il est à 3 secondes 7 seulement. Il lui a repris 7 dixièmes dans le dernier tour, dans le 53e tour. Ça veut dire que c'est pas joué. Hein. Il reste 25 tours maintenant.
Et on sait que pour doubler à Monaco, c'est quand même très très compliqué. Est-ce que les Ferrari vont prendre le risque de se doubler alors qu'elles sont 2 et 3e dans ce Grand Prix et que les points sont importants à aller chercher? Jean-Luc, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est une très très bonne question. Je pense que chez Ferrari, on doit commencer à y réfléchir en sachant que effectivement, si Charles est vraiment, et là ça a l'air d'être le cas, hein, beaucoup plus rapide que Lewis, on va lui demander à Lewis probablement de s'effacer, de ne pas trop résister en tout cas, parce que 25 tours, ça fait long. Hein, ça paraît difficile de tenir aussi longtemps. Ce sera un adversaire évidemment total d'une autre équipe, il n'y aurait pas de débat. Mais là, entre équipiers, bon, à voir. Surtout que bon, on a quand même du confort, hein, parce que le quatrième derrière, c'est Russell avec la deuxième des Mercedes, et tu es assis là, il est à 47 secondes de la Ferrari de Leclerc. C'est dire que là, on a carrément, on a tout le Grand Prix, à part les quatre premiers qui sont à un tour. C'est quasiment, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Hadjar est cinquième, mais il est à un tour. Piastri aussi, Gasly aussi, Lawson. Le seul à ne pas s'être arrêté maintenant, c'est Arvid Lindblad. Tu sais, le jeune britannique de Racing Bull qui lui est en 9e position, mais c'est virtuel puisque lors de son arrêt il va laisser passer notamment Sainz, Albon et Hülkenberg qui sont derrière lui. Oui, on a de la bataille, mais c'est beaucoup plus loin derrière, ouais. Hein, faut être clair.
C'est pas une grande publicité de la 11e pour l'instant place. Pour le Grand Prix de Monaco, malheureusement, Jean-Luc, hein, dont on sait qu'il est le plus glamour de la saison. On adore le Grand Prix de Monaco, mais en termes de performance sportive, en termes de bagarre, c'est plus ce que c'était il y a quelques années où on assistait quand même à des batailles homériques. Là, il y a pas, en tous les cas, sur cette édition pour l'instant, c'est assez décevant ce Grand Prix, mais il n'est pas terminé. Il peut se passer des choses encore.
On ne sait pas. Écoute, je dis là, je vois le retour de Charles Leclerc, hein, sur Lewis Hamilton qui se confirme. Il n'est plus qu'à 2 secondes 7, hein, pour le moment. Donc là, logiquement, d'ici 5-6 tours, il sera dans les roues de l'autre Ferrari. Alors, qu'est-ce qu'on va décider chez Ferrari ? Est-ce qu'on va imposer au septuple champion du monde de laisser passer Charles Leclerc dans les rues de sa principauté? Et voilà, Oscar Piastri hérite également de 5 secondes de pénalité. Ils sont en pleine forme, les commissaires.
Je pense qu'ils ont dû mal régler leur radar. C'est pas possible qu'ils mettent autant de pénalités à tous les pilotes. Ils sont tous en excès de vitesse. Ok, oui. On revient te voir dans quelques instants. On va voir si Charles Leclerc, sur son circuit qu'il connaît par cœur, puisqu'il allait à pied de son domicile jusqu'à l'école en passant par le circuit lorsqu'il était petit, justement, de par sa connaissance de ce circuit de Monte-Carlo, est-ce qu'il va pouvoir passer devant Hamilton? Est-ce qu'il en aura l'autorisation? La réponse dans quelques instants. Budapest, nous y retournons avant la grande finale de la Ligue des Champions. C'est la finale pour la médaille de bronze. Malheureusement, ça va pas très fort. Enfin, ça, c'est pas encore perdu, mais les Brestois sont dominés pour l'instant par les Roumaines de Bucarest, Kevin.
Oui, à 13 minutes de la fin de ce match, ça ne s'arrange pas pour les Brestoises et qui sont maintenant menées de 4 buts, 23 à 19 après donc 47 minutes de jeu dans cette petite finale entre Bucarest et le BBH, le Bretagne-Brest Handball.
Bon, c'est du handball, c'est toujours ça. Hein. On me dit, j'ai pas dit que c'était du hand. C'est bien du hand, Kevin. Hein, je me suis
pas
trompé.
Oui, c'est du handball. D'accord. Du handball féminin.
Très bien. À tout à l'heure, Kevin Morand, notre envoyé spécial à Budapest pour suivre Bucarest. 16h16. On retourne à Roland-Garros pour voir s'il y a un peu de suspense dans cette finale entre Zverev et Koboli. Florent Serra et Eric Salio n'ont pas encore attaqué la sieste, mais ça ne saurait tarder.
2-1 pour 6-1-2 hein, pour Sacha Zverev dans cette finale de Roland-Garros. Pour l'instant, bien déséquilibré, alors qu'il y a de la pagaille dans la tribune présidentielle. Là. Ils sont allés se rafraîchir, les gens.
Ah,
et
ils sont chauds.
Ça dérange un peu les joueurs. Bon, Koboli est au service pour tenter de revenir à deux jeux partout. On a senti quand même du mieux. Il est en train de se libérer progressivement. Je pense qu'il était un peu paralysé, Christophe, on va dire ça.
Ouais, donc la pression était en fait sur ses épaules et pas sur celle de Zverev, contrairement
stress,
à ce qu'on a dit ce matin.
Le stress, non, un peu sur ses épaules.
C'est le stress, ouais.
Même Zverev,
faut pas confondre stress et pression.
Bien sûr.
Pression, c'est pour gonfler les pneus, c'est ça?
Ou à boire à l'apéro, ça dépend.
Bon, si gagnant de Koboli, il va beaucoup mieux l'Italien. En plus, le public va le soutenir. On a eu
une pointe pour une Ola, bien sûr, mais des encouragements nourris. Ça commence à se manifester dans les tribunes parce qu'on a bien senti qu'il avait besoin d'un petit coup de main. Et là, il est en train de retrouver son jeu progressivement. Il mène donc 30-0 sur sa mise en jeu. S'il pouvait gagner son service blanc, ce serait encore bien. Ce serait un bon indicateur du renouveau du Rome. Même si en face, il n'a pas l'air tracassé, Zverev. Il est tellement sûr de ses forces, comme là, retour gagnant sur deuxième balle.
Pourtant, il avait appuyé un peu plus sur la deuxième balle de service. Là. Il avait servi à 171 Koboli parce que c'était un peu mou depuis le début du match. Mais là, ça n'a pas empêché Zverev de frapper fort en avançant là, sur la deuxième balle gagnant. Mais quand tu es un peu moins bien du fond, comme ça, il faut qu'il arrive à tenir son service. Déjà, après, on ne sait jamais, on l'a vu. On n'a pas la qualité du service de Menchik, mais quand on tient son service, après il a une petite occasion, Menchik, il a réussi à prendre un set comme ça en tenant après le sien, donc il faut qu'il recolle à chaque fois.
30-15, avec une bonne première de Koboli qui insiste. Non, elle est faute, Sacha n'a pas l'air convaincu, mais si, il fait confiance au juge de ligne et à l'arbitre. 40-15, donc deux balles pour faire deux jeux partout dans cette finale de Roland qui a débuté depuis 51 minutes. Je rappelle que Zverev a fait fort, hein, il a fait très vite. 6 jeux à 1 en 35 minutes exactement, mais il y a encore 2 sets à remporter pour l'Allemand, il le sait, les 2 sets les plus durs de sa carrière peut-être, avec une belle attaque de Koboli, il va conclure avec un smash, c'est fait, voilà. Deux jeux partout, ça va beaucoup mieux pour Koboli qui réclame le soutien du public.
Allez, le public de Roland-Garros ça fond derrière l'Italien. Pour l'instant, Zverev domine largement les débats, mais on ne sait jamais. Il est 16h18, Antonelli est toujours en tête du Grand Prix de Monaco. Hamilton, Leclerc vont-ils se livrer à la bagarre? La réponse dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Il peut se passer des choses à Monte-Carlo, à Monaco, sur le Grand Prix du même nom, puisque Lance Stroll s'est mis dans le décor. Du coup, il y a une voiture de sécurité, safety car, qui peut relancer la donne. On ne sait jamais, Jean-Luc.
Mais totalement, puisque effectivement Lance Stroll bloquant quasiment la piste au niveau du virage Anthony Nogues, c'est le dernier virage de ce tracé, celui qui commande la ligne droite, donc abandon évidemment pour Aston Martin. Eh bien, on a sorti le safety car, et le safety car, on fait d'ailleurs passer les pilotes par la voie des stands, semble-t-il, et là on en profite évidemment pour arrêter avec des problèmes à l'arrière gauche pour changement de roue sur la Mercedes de Kimi Antonelli. On arrête tout le monde, on arrête Russell également. On avait arrêté dans un premier temps les Ferrari d'Hamilton et de Leclerc. Oula, c'est chaud dans la voie des stands, comme c'est étroit évidemment et qu'on vient de relâcher les monoplaces le plus vite possible. Alors évidemment, on va regrouper tout le monde hein, derrière le régime de safety car, et comme tu l'évoquais, Christophe, eh bien, on va avoir une fin de Grand Prix absolument passionnante parce qu'on n'a pas choisi le même type de pneumatique pour tout le monde. Je peux te dire que pour Antonelli, pour Hamilton et pour Leclerc, les trois premiers, eh bien, on a choisi des pneumatiques soft, les plus tendres. En revanche, pour Isaac Hadjar, le quatrième, on a des pneumatiques dures. Pour Russell, l'autre Mercedes, on a des softs. Pour Gasly, l'Alpine, on a des durs. Pour Piastri, on a des softs. Enfin, il y a un panachage très intéressant. Donc, ça veut dire qu'au moment du restart, dès qu'on aura évacué l'Aston Martin de Stroll, eh bien, on va avoir une fin de course absolument jubilatoire. Je te la vends bien, Christophe.
Ah, tu m'as survendu même. Tu me l'as survendu, mais on va voir si t'es dans le vrai avec donc ce Grand Prix relancé alors qu'il y avait quasiment aucun suspense. Antonelli dominant de la tête et des épaules, va-t-il poursuivre son cavalier seul? Réponse dans quelques instants. Il reste encore 16 tours à parcourir dans ce Grand Prix de Monaco. On est toujours sous régime de safety car. Pas de safety car, mais un avantage pour Zverev qui mène 1-7-0 et 3 jeux à 2 dans la deuxième manche. Mais personne n'a breaké dans la deuxième manche, messieurs.
Non, personne n'a breaké. Et Koboli débute très bien ce sixième jeu de la deuxième manche, puisqu'il mène 30-0 avec quelques petites fautes. Une petite faute à l'instant de Sacha Zverev. Est-ce qu'il est en train de se relâcher? Je pense pas. Puis il a pas intérêt à se relâcher.
Il sert mieux, Koboli.
C'est vrai.
Il a fait un ace sur le premier point. Il en met un peu plus. Il s'approche des 200 à chaque fois. Et du fond, il essaie de mettre un petit peu plus d'intensité aussi. Non pas qu'il en avait pas dans le premier set, mais hein, il essaie de trouver du relâchement. Une faute sur deuxième balle de service, là, à 157. Quelques points donnés, en effet, aussi.
Bon, ça y est, il était paralysé. Le bras, maintenant, va beaucoup mieux. Ça y est.
Il faut retourner
notre finale. Christophe, c'est parti, là. On va avoir un beau duel. Je suis convaincu. Ouais. 40-0. 3 balles pour faire 3 partout. On approche l'heure de jeu. 58 minutes exactement dans cette finale. Et Zverev, donc, on va voir s'il va commettre une nouvelle faute. Il y a eu aussi pas mal de réussites. Et d'ailleurs, il a imploré les dieux, Koboli, en disant mais c'est pas possible, le mec a fait deux bandes, ça commence à bien faire. Et Mamma Mia, 45. Si en plus il a la réussite, Zverev, effectivement, Flavio risque de couler à pic. Mais depuis 20 minutes, enfin allez, un gros quart d'heure, je trouve qu'il a retrouvé des couleurs, l'Italien.
De toute façon, l'idée, c'est de tenir son service encore une fois, d'arriver voilà, dans un moment un peu chaud, à 4 partout, de mettre un petit peu la pression sur Zverev à ce moment-là. Mais tu peux pas céder ton service en début de set trop tôt comme ça. Sinon, comme on disait tout à l'heure avec Eric, le set, il y a des fortes chances qu'il soit perdu. Donc, compliqué. Il faut qu'il tienne son service. Et c'est bien mieux déjà ce qu'il fait en seconde. Il a un petit peu accéléré aussi. Mais bon, globalement, c'est plutôt Zverev qui est assez proche de la ligne de fond de cours.
Oh,
c'est
là
un peu lui
là
qui
là
décide.
Le revers de Sacha Zverev, celui-là, il fait mal à la tête parce que c'était une balle pour faire trois jeux partout et là Zverev se montre menaçant. Le revoilà à 40-30. Ah, c'est monstrueux, c'est la grande qualité de Zverev côté revers. Il est capable de...
Il est excentré en plus, hein.
Oh là là, ouais.
Quasiment dans le couloir pour frapper ce coup. Un peu derrière en plus, elle frôle le filet celle-ci. Tu vois, on parlait de marche
beaucoup,
tout à l'heure.
Ils sont capables de faire ça sur le circuit, hein, côté revers. Attention Flavio, 40-30. On était à 40-0. Il vient de perdre 2 points. Il faut absolument serrer le jeu. Bonne première. Est-ce que ça suffit? Ouh là là, la bande. Non, cette fois-ci, la balle ne franchit pas la ligne. Le filet, pardon. Jeu Koboli. Christophe. Trois jeux partout dans cette
équipe. Trois jeux partout. Tout est encore possible pour l'Italien qui serre le point et qui regarde vers son box et vers Panatta également. Ouais. Impassible, le vainqueur d'il y a 50 ans, Adriano Panatta. 16h27, trois partout dans la deuxième manche. On retourne à Monte-Carlo. Toujours la safety car. Jean-Luc, ça va durer longtemps cette histoire ou non?
Pas trop longtemps. Là, je pense qu'on devrait repartir pour une bonne douzaine de tours. Nous sommes dans le 64e, alors que oui, il y a effectivement, comme il y avait des monoplaces qui étaient à un tour, on essaie de mettre un peu d'ordre du côté de la direction de course. Et tu sais que dans le cas où il y a comme ça un safety car qui sort, eh bien, on permet aux monoplaces qui étaient à un tour du leader de dépasser le safety car et de se repositionner.
D'accord.
À la fin, et oui, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que tu vois ces dépassements, c'est tout à fait autorisé et même obligatoire. La direction de course qui impose effectivement de ranger tout le monde dans le bon ordre. On aura donc Antonelli qui devrait rester, je l'espère pour lui, en tout cas le premier derrière le safety car avec sa Mercedes équipée de pneumatiques tendres, je le répète, les softs. C'est le cas des deux Ferrari d'Hamilton et de Leclerc juste derrière. Ensuite, eh bien, on a la Red Bull rescapée, je dirais, d'Isaac Hadjar, rescapée parce que il avait des problèmes de boîte de vitesse, hein. Tu t'en rappelles tout à l'heure, il se plaignait auprès de son ingénieur d'avoir un problème pour engager le premier rapport, et on l'a vu d'ailleurs avec la Mercedes de Russell qui était derrière. Eh bien, ça, pour le moment, ça tient, en tout cas, pour Isaac Hadjar qui a des pneumatiques dures, lui, sur sa Red Bull, juste derrière lui. Attention, parce que Russell est toujours là avec la Mercedes, mais des pneumatiques tendres. Et puis, on a Pierre Gasly qui s'est arrêté avec l'Alpine également pour chausser des pneumatiques dures. Et on a enfin Piastri avec la McLaren rescapée, puisque tout à l'heure, je ne sais même pas si on l'a signalé, eh bien, Lando Norris, après une course un petit peu anonyme, avait dû se retirer avec un problème mécanique. Donc, la seule McLaren, c'est celle de Piastri qui est actuellement septième, pneumatique tendre également. Juste devant Liam Lawson qui fait un très très beau Grand Prix, vraiment. Liam Lawson qui est parti dixième et qui est actuellement huitième avec des softs. Et puis Lindblad, je t'en parle souvent de ce jeune Britannique, Arvid Lindblad, eh bien, il est neuvième. Il ne s'était pas arrêté, lui. Et évidemment, l'arrivée du safety car lui a permis un arrêt gratuit en quelque sorte. Il a monté des pneumatiques médium. Et le dernier dans les points, eh bien, c'est Albon. Alex Albon qui est dixième devant Sainz et Ocon étant douzième. Allez, voilà, la piste est libre maintenant. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à l'issue de ce tour, là, le 65e, à libérer les pilotes pour une douzaine de tours. C'est ce que je t'avais annoncé.
Ok, on va voir si Hamilton et Leclerc ont gardé un peu de puissance dans leur batterie pour essayer de jouer des tours à Antonelli qui jusque-là domine de la tête et des épaules ce Grand Prix. On reste avec toi pour le redémarrage. Safety car ending, nous disent les commissaires. Donc voilà, c'est terminé. Les voitures retrouvent leur rythme de course, hein, Jean-Luc.
Ah bah absolument, oui oui. Là on va repartir évidemment dans des conditions de course, hein, des conditions maximales, et chacun va faire en fonction de ses capacités, comme tu le disais, ses capacités en termes de pneumatique évidemment, et puis ses capacités en termes de recharge électrique, parce que sous régime de safety car évidemment, et c'est un des problèmes auxquels les pilotes sont confrontés, eh bien il faut parvenir à conserver de la puissance électrique pour pouvoir évidemment exploiter le fait de libérer la piste au dernier moment. Alors, est-ce que Kimi Antonelli va tenir le coup? Jusque-là, il a fait preuve vraiment d'une domination absolument écrasante. Hein. Je ne sais pas si les Ferrari vont faire preuve de leur vélocité habituelle. Bon, on n'est pas arrêté, hein, comme sur une grille de départ. On va partir lancer, surtout que Antonelli, évidemment, prend la précaution, voilà, de laisser partir maintenant le safety car pour pouvoir accélérer quand il voudra, c'est-à-dire vraisemblablement à la sortie du virage de la Rascas, l'avant-dernier virage de ce tracé, voilà.
Ouais,
il a accéléré, c'est effectivement. Oui, c'est reparti avec Antonelli, donc devant les deux Ferrari, juste derrière, et voilà, on repasse. Alors ça glisse dans tous les sens, hein, évidemment, parce que les pneumatiques ont perdu également de l'adhérence, et j'ai l'impression que oui, on a perdu une des Ferrari, ou en tout cas, elle a pris beaucoup de retard. Hein. Pour le moment, Antonelli devant Hamilton, et oui, et c'est Charles Leclerc qui s'est loupé, c'est bien ce qui m'avait semblé dans le fond de l'image, et il s'est loupé au même endroit que Lance Stroll, exactement au même endroit. Et ben, tu vois, je connais la sanction doit être terrible là pour Charles, terriblement déçu, donc c'est le retrait, donc on va sortir à nouveau le safety car évidemment, puisqu'il va falloir évacuer la Ferrari de Charles Leclerc. Là, étonnant, hein, qu'il ait été piégé dans cet endroit, le dernier petit virage à droite qui commande la longue ligne droite des stands, Christophe.
Eh oui, Charles Leclerc qui connaît pourtant le circuit comme sa poche, mais effectivement là, dans la Rascasse, à la sortie de la Rascasse, et ouais. Il a fait un tout droit. Un tout droit, exactement au même Noguès, endroit là, que ouais. C'est Anthony, pardon, le virage Anthony Noguès, et donc il a bloqué les pneus, il tape sur le volant de dépit Charles Leclerc. C'est terminé pour le petit prince de Monaco, qui ne remportera pas une deuxième fois son Grand Prix à lui, et qui va avoir Hamilton et bien empocher des points. Hamilton qui lui est juste derrière Antonelli, mais la course va à nouveau être ralenti, hein, parce qu'il va falloir sortir la voiture, quoi. Ça peut durer longtemps cette histoire.
Neutralisé, bah écoute, il se plaint des freins. Voilà, on a la radio. Fois, ouais. Il dit, ouais, bah, les freins avaient refroidi, bien évidemment. Et donc là, comme il y avait quelques mètres qui s'étaient créés par rapport à l'autre Ferrari, celle d'Hamilton, eh bien, il a voulu essayer de repartir juste derrière et.
Bon, en tout cas, ils ont évacué la voiture rapidement, parce qu'il y avait déjà une grue qui était en place pour évacuer celle de Stroll. Donc la course va vraisemblablement pouvoir repartir assez vite, puisqu'il reste encore 11 tours à parcourir dans ce Grand Prix. On vous rappelle donc l'abandon de Charles Leclerc, qui a suivi celui de Lance Stroll, et puis en tout début de course celui de Max Verstappen. Il n'y a plus beaucoup d'adversité pour Antonelli, mis à part celle de Lewis Hamilton, qui est toujours dans sa roue. Il va y avoir à nouveau un départ dans quelques instants, lorsque la safety car aura regagné les stands. Nous repartons en attendant à Roland-Garros, deuxième set beaucoup plus serré que la première manche. On vous rappelle que le premier set a été remporté 6 jeux à 1 par Zverev, mais là il est accroché par Kobeli dans cette deuxième manche, 3 partout entre les deux hommes, messieurs.
Ouais, c'est le jeu le plus disputé de la rencontre, 3 jeux partout, et c'est un jeu au cours duquel Kobeli s'est procuré sa première balle de break, Flo, et Sacha Zverev l'a magnifiquement effacé après un très très long échange de 23 coups de raquette. C'était peut-être le tournant de cette rencontre, on verra, mais en tout cas il s'est montré solide. Là il a une balle pour faire 4-3. Tout à l'heure il a commis double faute, donc il a un peu baissé, ouais. Et Kobeli a monté.
Kobeli monte en intensité, il arrive à trouver de la hauteur aussi sur cet échange de 23 coups de raquette. Il a repoussé Zverev, il trouve un peu plus de volume, il change plus les hauteurs de balle, et c'était plutôt bien. Et après il s'est pas trop frustré sur le point, mais il faut qu'il joue comme ça. C'est comme ça qu'il va faire rater Sacha, qui tient bien l'échange, qui a été assez solide et qui continue par contre à accélérer dès qu'il en a l'occasion.
Ah, c'est bien joué de la part de Kobeli, l'amorti. Est-ce que
elle est belle.
Et beau revers le long de la ligne, Kobeli. C'est une des premières fois où on le voit aller comme ça, décider en premier de frapper long de la ligne, d'aller dans le coup droit de Zverev, et donc il arrive un petit peu plus à le bousculer.
Magnifique. On est à 7 ou 8 minutes de jeu là, dans ce septième jeu.
Après, ce qui est encore une fois, tu vois que Kobeli est mieux au fond du court, mais il a toujours Zverev, là tout à l'heure, un service gagnant avec le smash derrière, un ace extérieur, il a toujours le service qui vient aussi l'aider, ouais, lui enfin, faciliter
y a,
la tâche.
Il a double aussi, Flo.
Est-ce qu'il peut faire douter l'Allemand? C'est le, toute la question qu'on peut se poser quand même, hein. Parce qu'il a l'air sûr de lui quand même, Zverev, hein. Très très là, sûr
il
de
est,
lui.
Il est bien chahuté. Mais... c'est pas un hasard s'il a commis une double faute tout à l'heure, alors qu'il était à côté gauche avec l'avantage. Donc, il sent que c'est un moment très important.
Voilà. Comment il va réagir? Et comment il va réagir s'il se crispe, que Koboli arrive à faire un break, tu vois? Comment il va réagir derrière?
Si Koboli prend la deuxième manche, ça relance tout. Bon, on revient vers vous dans un instant. On va voir ça. On est toujours à 3 partout. Mais c'est terminé pour Brest. Un Final Four, pas à retenir, qui restera pas dans les annales pour les Brestoises. Battu à deux reprises, en demi-finale et en petite finale, Kevin Morand.
Ouais, elles avaient fait une finale il y a 5 ans pour leur seule participation jusque-là à ce Final Four, et il n'y aura pas donc deux équipes françaises sur le podium. Brest termine quatrième de cette Ligue des Champions, c'est le CSM Bucarest qui prend la troisième place, 32-26, score final plus 6 donc pour l'équipe roumaine. Les Bretonnes qui ont payé certainement les efforts de leur demi-finale engagée hier contre Győr, qui sera donc finaliste tout à l'heure face à Metz. Les Lorraines qui sont en finale, elles, et qui seront peut-être donc forcément sur le podium pour les équipes françaises, donc au moins une équipe française en finale, ce sera Metz, et pour Brest ce sera la quatrième place.
Merci Kevin. 16h36, nous repartons à Monaco. Je vous annonçais un peu trop vite que le safety car allait s'effacer rapidement. C'est au contraire un drapeau rouge qui vient stopper les monoplaces, Jean-Luc.
Absolument, Christophe. Là, c'est un peu la confusion la plus totale, il faut bien le dire, parce que on ne comprend pas dans l'immédiat, en tout cas, les raisons qui ont amené la direction de course à imposer ce drapeau rouge. Donc, la course est totalement interrompue, évidemment. Le safety car est repassé par la voie des stands. Il est suivi par les monoplaces, j'allais dire rescapés, parce que il y en a plus beaucoup, hein. Il y en a une petite quinzaine. Donc, on a vu également que George Russell, qui devait servir une pénalité, comme de très nombreux pilotes pendant ce Grand Prix. Voilà, il y a Pierre Gasly aussi qui en a une autre de 5 secondes. Ça n'arrête pas. On va plutôt compter les pilotes qui n'ont pas été affectés par une pénalité, hein, dans ce Grand Prix. Pour le moment, Antonelli et Hamilton sont passés entre les gouttes, tout comme Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon, Sainz, et allez, on va aller jusqu'à Ocon, 11e. Je te donne donc les positions des monoplaces. A priori, j'imagine qu'après une certaine période, là, mais je te dis, on nous a pas communiqué les raisons pour lesquelles on a sorti le drapeau
c'est
rouge.
Bizarre, pourtant, ça, c'est
bah oui, la Ferrari de Charles Leclerc avait bien
évacué.
Été évacué, tout à fait, sans problème. Alors, est-ce qu'il y a un liquide qui s'est répandu dans ce virage-là? Comme évidemment, il est très difficile dans ce cas-là de l'absorber, de le nettoyer. Ça peut être une possibilité. Je vois que celle-là.
Alors, les pilotes descendent de leur monoplace. Est-ce que le Grand Prix peut s'arrêter définitivement ou de toute manière, il redémarrera à un moment, Jean-Luc?
Alors, la direction de course peut décider, là ils sont seuls juges, hein. 68 tours ont été effectués sur les 78, donc le résultat peut tout à fait être entériné, c'est le règlement, mais je pense qu'on va pas s'arrêter comme ça, moi ça me paraîtrait un peu dur à tout niveau. Donc tout dépend des causes, hein, des vraies raisons. Est-ce que à un endroit du circuit également, la sécurité, je pensais à ça, puisque les deux pilotes ont tapé exactement au même endroit, hein. Stroll et Leclerc ont tapé dans les protections, tu sais, les air fence, là, qui sont devant le rail. Est-ce que le rail a été touché? Ça peut être ça la raison.
Ah oui, d'accord.
Alors si le rail est touché,
il y en a pour un moment, on va appeler le service d'entretien de la mairie de Monaco et on revient tout à l'heure. Donc course interrompue, on vous rappelle qu'Antonelli était devant. On repart à Roland-Garros parce qu'il se passe des choses dans cette finale. Koboli vient de breaker Zverev dans la deuxième manche, messieurs.
Le break pour Flavio Koboli avec une succession d'erreurs de Sacha Zverev. Une double.
Deuxième double. Deux doubles, un coup droit dans le mur.
Un coup droit
pas dans le mur, dans le couloir.
Dans le couloir. Et puis surtout une attitude bizarre. Il se tourne vers son clan en disant mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, s'il y a eu
j'aurais dû venir voler peut-être à un moment, je pense qu'il doit dire, mais ouais, il y a un petit peu donné le jeu. Après, ça veut pas dire que il va pas revenir. Eric me dit ça y est, il a peur et tout.
J'ai jamais dit ça.
Non, entre nous, on
je dis non. Koboli, il faut que Koboli. Il confirme son avantage, sûr, parce que là, sinon.
Bon. Alors, c'est confirme. On va vite faire une petite coupure. On revient pour suivre à la fin de ce deuxième set. Et si la finale commençait à devenir passionnante, on revient dans un instant à Roland-Garros et à Monaco où la course est interrompue. À tout de suite.
C'est Intégral Sport.
Christophe Cécile.
Il se passe des choses. Et à Monaco et sur le central de Roland-Garros. À Roland-Garros, tout d'abord, Koboli qui a breaké dans la deuxième manche. Il mène 4 jeux à 3 et a une balle de confirmation de break. Il mène 40-30, mais Zverev fait de la résistance, Florent, Eric.
Oui, il y avait 40-15, mais Zverev a sorti un énorme coup droit sur lequel Koboli n'a pas résisté. Mais il y a encore une balle pour faire 5-3 pour Flavio Koboli. Hein. 4-3, 40-30. Là, la finale prend une tournure totalement différente parce que Zverev n'arrête pas de se plaindre auprès de son box. La smash de Koboli, qui coterait.
Allez, vamos. En tout cas, c'est pas mal ce petit, un petit service volé aussi. Et non, c'est ce qui est le plus surprenant parce que tu peux te faire breaker, il n'y a pas de souci. Mais c'est que Zverev discute beaucoup et s'énerve beaucoup avec son père, je pense.
Il joue rapide, il peut leur demander
le stress. Non, c'est sûrement trop technique pour nous, mais.
Non, attends. Il n'y a pas le feu, Eric.
Il n'y a pas le feu. Flo n'a pas l'air affolé. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de tourner.
Arrête. Arrête. Tu prends tes désirs pour les réalités, Eric. Bon, 5-3. Allez, 5-3, on revient vers vous dans un instant. On va aller voir à Monaco ce qui se passe, puisque la DDE de la principauté est sur la piste, Eric, enfin, Jean-Luc, pardon, et inspecte la piste. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce circuit et sur ce tracé de Monaco?
Alors, c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça n'est pas une question de sécurité en termes de rails, apparemment, mais c'est bien la piste qui est extrêmement glissante à cet endroit, parce que il y a ce qu'on appelle les marbles, en anglais, en langage de la Formule 1. Ça veut dire les bouts de gomme, tu sais, qui se détachent évidemment des pneumatiques, qui s'étaient accumulés à l'extérieur de ce virage, et qui apparemment constituaient une couche suffisamment glissante pour que Stroll ait perdu le contrôle de sa monoplace. Alors,
juste derrière. Donc ça fait deux garçons en quelques tours à peine. Effectivement, ça pouvait être une hécatombe si ça continuait comme ça.
Absolument. Donc on a considéré du côté de la direction de course que les conditions d'adhérence étaient trop précaires pour pouvoir continuer le Grand Prix dans ces conditions. On a fait venir une machine, tu sais, pour nettoyer les machines que l'on voit dans les rues des villes. Hein, tu as raison, c'est la DDE de Monaco qui a été au travail là. Mais pour le moment, on est un peu dans l'expectative. Et tous les pilotes sont évidemment sortis des monoplaces. Tu sais qu'en cas de drapeau rouge, eh bien, on repart de zéro. C'est-à-dire qu'on change les pneumatiques, on fait ce qu'on veut hein, dans les stands.
On repart de la grille ou on repart des stands à la queue le dans.
Alors, là aussi, la direction peut décider soit un départ arrêté, carrément, soit un départ lancé derrière safety car. Je pense qu'on va opter pour le départ lancé, mais c'est mon opinion personnelle. La direction de course est tout à fait libre de choisir en fonction de la configuration du circuit, en fonction du nombre de tours qui subsistent, etc. Je pense qu'on va faire un tour probablement derrière safety car. Le safety car va s'effacer. Et puis ensuite, on larguera les pilotes pour 9 tours. Donc 9 tours de course effective, j'espère en tout cas. En tout cas, on s'active très fort du côté des commissaires pour essayer de bien nettoyer ces fameuses marbles, ces fameuses boulettes marbles, de gomme. Marbles, tu sais, c'est ce qu'on voit coller marbles sur les pneus quand les pilotes regagnent les stands après le Grand Prix. Et pour ne pas avoir de problème avec le poids, puisque c'est arrivé, il y a eu des déclassements, et bien les pilotes partent bien à l'extérieur des trajectoires et c'est plusieurs kilos de gomme hein, qui peuvent coller comme ça sur les pneumatiques.
C'est vraiment des pneus pas terribles quoi. Ils durent 15 tours et en plus ils en laissent partout. Ok Eric, on te retrouve je vous confonds tous les deux, vous êtes tellement présents à l'antenne aujourd'hui que j'ai du mal. À tout à l'heure Jean-Luc, donc on verra si le Grand Prix repart. Pour l'instant on est toujours sous Red Flag. Eric Salio, Florent Serra, cette fois-ci je les tiens bien tous les deux pour la suite de cette finale. 5 jeux à 3 pour Koboli dans la deuxième manche qui a breaké Zverev et qui menait même 30-15. Ça y est, 30 à égalité.
30 à, ouais. Ouais, parce que là, Zverev vient de réussir un joli coup droit croisé, mais il n'est pas serein. Il n'est pas serein, ça se voit. Est-ce qu'il va réussir à sauver sa mise en jeu? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une balle de 7 dans les secondes qui viennent, hein, Flo. Hein, s'il y a 30 à. Et je trouve Koboli virevoltant, totalement investi dans sa partie, déterminé, soutenu par le public. Donc ça fait beaucoup d'éléments contraires pour Sacha Zverev, qui essaie de faire le vide dans son esprit. Là, il passe une bonne première, il va y aller avec le coup droit, ça devrait le faire. Il y a un lob, la balle s'élève
très haut,
pas le rebond, mais il finit quand même 40-30
serein,
pour Zverev.
Serein sur le smash quand même.
Là, il parle à l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il était perdu, quoi. Il connaissait pas le score. Très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe. 40-30, balle pour revenir à 5 jeux à 4 pour l'Allemand. Mais c'est passionnant. Depuis 20 minutes, c'est passionnant ce qui se passe sur le Châtrier, parce que on sent que Koboli est à deux doigts de recoller à une manche partout, et ce qui évidemment nous amènerait dans un match très long.
vous en doutez.
Hein? Oui, 3h37, c'est ce que voilà. Tu avais pronostiqué.
Allez, hein, c'est parti. Bonne première, retour.
Gagnant. Oh,
oui, bien, elle est belle.
Oh, retour prix tôt, il coupe un peu la trajectoire.
Alors là, c'est vrai, ça va pas arranger ses affaires. Hein.
C'est quand même mieux ce qu'il fait au niveau des trajectoires de balle. Koboli, il jouait trop tendu et là, il arrive à trouver de la longueur et de la hauteur. Là, sur ce retour, il vient, il est loin, mais il vient quand même légèrement en diagonale couper la trajectoire et ça, c'est plutôt pas mal. Il a été surpris là, Sacha.
Ah, il regarde la balle passer sous ses yeux, un peu dégoûté. Il n'y avait rien à faire. Nouvelle égalité. Égalité donc sur service de Zverev. Retour intéressant de Koboli. Il montre Zverev. Volée.
Oh, gagnante.
Bien joué.
Et pourtant, il était parti de loin hein, sur la volée. Eric, il fait sa reprise d'appui juste derrière la ligne de service. Et il va bien chercher cette volée long de la ligne. On sait bien qu'il aille aussi vers l'avant. Quand il y a un moment où tu vois là que tu es un peu moins bien, il n'a pas hésité à frapper ce coup droit. Mais il continue, il faut continuer à attaquer. Il peut pas se permettre de laisser le jeu à l'Italien, sinon c'est lui qui va galoper.
Bien sûr. Nouvelle balle pour revenir à 4 jeux à 5 dans cette deuxième manche pour Zverev. Je rappelle qu'il a pris le premier, hein, très très vite, 6-1. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Mais là, on est à 1h22, donc c'est plus du tout la même mayonnaise. Retour qui a failli tomber dans le filet, c'est pas terrible ce qu'il fait Zverev là.
On est bien couvert, mais c'est bon.
Il sort sa volée, Sacha.
Il était
en train de perdre pied. Moi, je le dis, je le maintiens. Il est en train de perdre pied.
T'as le droit d'avoir 2-3 jeux où tu te sens un peu moins bien, faut bien réagir derrière.
Oui, vas-y, remets-le dans le match, c'est intelligent. Bravo, bravo. Belle stratégie, hein, bravo. Non, mais là, sérieusement. T'es numéro 3 mondial, tu dois affirmer ton statut et là, il est en train de découpiller petit à petit. On le voit.
Il va l'affirmer en 4 au pire.
Très bien, je veux bien, mais. Il se met dans la difficulté un peu tout seul, même si Koboli.
Avantage.
Un ace pour Zverev.
Cette arme va l'aider quand il va avoir des petits moments un peu moins bien. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Koboli qui réussit à revenir au score, il tient son service, il a eu l'occasion. Tiens, un petit coup de moins bien de Sacha, hop, il break. Maintenant, on va voir s'il va aussi confirmer derrière. Mais c'est l'importance de tenir son service sur un match comme ça face à un gros serveur comme Zverev, essayer de le breaker une fois.
Mais c'est pas très futu de remettre ton adversaire comme ça dans
tu crois qu'il le fait exprès.
Oui, c'est ça que j'ai dit. Tu dis, tu crois qu'il a fait 2 doubles, ok, ça
a... Bah oui, mais enfin, ça suffit pour faire tourner le match. Enfin, le 7, pardon.
Ouais,
bah, faut pas m'emballer.
Il peut le remettre dans le sens.
Il a la bavolève, là, Koboli. Tu le vois. Il est survolté. Zverev lui reste stoïque, stable, ok.
Oui, mais moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'il a été vraiment nerveux.
Retour gagnant encore. Et là, il le lâche 3 mètres derrière la ligne de fond. Et Zverev, il a les pieds dans le ciment. Il bouge plus. Tu l'as vu, ça, Flo?
Ouais, là, je l'ai vu.
Ah, bah enfin. J'ai l'impression qu'on voit pas le même match.
Il a été solide, il a été solide sur ce retour. Ça arrive, là, t'es un petit peu dans le dur sur ton service. Il faut qu'il le tienne aussi. Et puis, on va voir après ce jeu d'après, s'il y a, parce que on est tout proche aussi de la fin du set. Ça peut aller très vite. Il prend encore beaucoup son temps, Zverev.
3-41, on rappelle le score, c'est important parce que c'est stratégique ce qui se passe.
Ça, c'est bien de lever comme ça.
Ah, pour Koboli, tactiquement, il y a son papa qui a dû lui donner les bons conseils. Un petit slice de revers et Zverev qui joue au plein centre. Il cherche pas le point gagnant, Zverev. Il va se faire prendre, Zverev. Non, c'est lui qui a la main là sur l'échange. Et il n'ose pas monter. Et il bouge pas bien, là, Zverev. Il va se faire attaquer en 3 temps. Amorti, elle est gagnante.
Oh, c'était bien joué quand même.
C'est dommage.
Mais tu vois, le revers le long de la ligne, il l'utilisait pas beaucoup au début. Koboli, là, il se donne le temps de le faire. Et le long de la ligne surprend beaucoup plus Zverev parce qu'il aime bien décaler autour de son coup droit. C'est là où il est mieux. Dans le plein coup droit, parfois, il fait des bois. Mais là, il est obligé d'aller plein coup droit. Il aime un peu moins. Et c'est vrai que l'amorti, si elle est dedans, c'est dommage parce qu'il a pas démarré.
Sinon, c'était balle de 7, Christophe. C'était balle de 7. Tu te rends compte après 1h25.
Il y a
une heure, on disait ça y est, ça va être une finale qui va se dérouler, ça va faire 6-1, 6-2, 6-3.
Oh, ça comme fera quoi, 6-1, 7-5, 6-4.
Ouais, je sais pas ce qu'il a, il a dû parier.
C'est pas c'est un pro Zverev.
C'est une première de Zverev, il va y aller là quand même.
Ah, il la sort quand même sur l'attaque.
Oh là 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 là. Sacha, reprends-toi.
Ah, on voit Koboli qui discute beaucoup avec Monsieur Dumuzois. C'est pour le.
Ça bouge peut-être dans le public, il y a trop de bruit, je sais pas.
Ouais. Mais ça fait plusieurs attaques comme ça. En plus, Zverev voit Koboli se replacer, donc il veut trouver de l'angle sur ce coup-là. Mais tu sais que c'est le coup quand il est un petit peu tendu, c'est le coup qui va moins bien chez lui. Ah bah non, le coup droit, c'est quand même le baromètre de son jeu.
Bah,
je confirme qu'il est un petit peu tendu quand même. J'ai pas dit que c'était facile. Et j'ai pas dit que ça c'est non plus trop facile de gagner son premier tournoi de Grand Chelem.
Hein. Dans ce jeu qui est interminable, 5-3. Hein, je rappelle pour Flavio Koboli. Est-ce qu'il va se créer une balle 2-7? Oh, c'est un point magique, ici par Zverev, mais que Koboli a été brillant. Avec, il a lâché le bras là, ah sur,
ouais, en bout de course,
sur
un droit, là.
Et heureusement, Zverev était aux aguets. Il remet tout doucement une balle avec un slide de coup droit qui a franchi non sans mal le filet. Il a dû pousser un ouf de soulagement, Zverev, parce que sinon c'était balle de 7.
Et ça a donné un peu en défense, comme ça, en compensation. Ouais. Ça donne une amortie en fait de défense, ah ouais, avec un peu de réussite.
Ah, il s'en tire bien, l'Allemand. Allez, nouvelle balle pour revenir à 4-5. Est-ce qu'il va encore gâcher cette occasion, Zverev? Bonne première sur le revers. Il fait service volé.
Oh, la amortie est belle.
Service volé amorti.
Ouais.
Ouf, il rejoint sa chaise. Il est encore vivant dans cette deuxième manche. Et Koboli va servir dans quelques secondes pour revenir à une manche partout.
Koboli mène
5 jeux à 4. 5 jeux à 4 donc pour Koboli, qui va avoir l'occasion dans quelques instants sur son service. Il vient de conclure cette deuxième manche, lui qui est mené 1-7-0, 6 jeux à 1, remporté par Zverev. Monaco, Jean-Luc, on y retourne, toujours drapeau rouge, mais il me semble qu'il y a un peu de mouvement et que les pilotes sont en train de se rapprocher à nouveau de leur stand, peut-être pour un nouveau départ. On rappelle qu'il reste encore 10 tours à parcourir. Tu nous rappelles le classement au moment où le Grand Prix bien a sûr été interrompu?
Eh bien, c'est toujours Kimi Antonelli, donc le jeune Italien de 19 ans, leader du championnat du monde avec sa Mercedes, qui conservait évidemment la première place avec une avance considérable, hein, sur Lewis Hamilton et la Ferrari. On rappelle la sortie, malheureusement, de Charles Leclerc au moment du restart dans ce virage Antonino Guez où Stroll était sorti précédemment et avait entraîné la première éruption du safety car. Donc Antonelli, Hamilton, Hadjar, un excellent troisième. Attention, il est sous investigation des commissaires parce qu'il n'aurait pas respecté effectivement le safety car. Alors à voir, parce qu'une sanction est tombée pour le quatrième, Russell, qui lui devra passer par les stands. Il a un drive-thru, donc si la course repart, eh bien il sera obligé, autant dire que ça va tuer sa course, hein, parce qu'on va évidemment réduire les écarts à zéro. Donc Russell qui est quatrième, Gasly cinquième, pourrait donc récupérer éventuellement cette quatrième place, Piastri sixième, Lawson 7e, Lindblad 8e, Albon 9e, Sainz 10e et Ocon aux portes des points, mais peut-être mieux, il est pour le moment 11e.
Merci Jean-Luc. Il est 16h55 au moment où Koboli et Zverev reprennent place sur le court, avec Koboli qui va servir dans quelques instants. Il mène 5 jeux à 4, il est au service et il va avoir l'occasion d'égaliser à un set partout, Eric et Florent.
Ouais, c'est parti, c'est mal parti pour l'Italien, puisque il a pris un retour dans les chaussettes là, alors qu'il était vraiment collé à sa ligne de fond de cours. Il n'a pas fait l'effort, hein.
0-15.
Et donc il a totalement boisé son coup droit. 0-15. Et Zverev, on a vu une scène assez marrante. Non, il a demandé à un ramasseur d'aller porter sa raquette au cordage express. Donc il a besoin de changer le cordage de sa. Il veut un cordage tout neuf. Est-ce qu'il a demandé une tension différente? Ça, on peut pas vous le dire.
Sûrement, parce que t'as tellement de différence entre le début du tournoi hier, quand il y a du vent, avant-hier aussi plus frais.
Kazar, bien joué, Fabio.
Bien monté. Garder du rythme après le service aussi, comme tu disais, Eric, parce que là, après son retour, c'est vrai qu'il est resté un petit peu immobile, Koboli. Et là, c'était bien servi, bien attaqué.
Kazar, à 3 points de relancer totalement cette finale des Internationaux de France 2026. Zverev, 0 victoire en chelem, 3 défaites. C'est l'occasion de sa vie. Il mène une manche à 0, mais s'il est rejoint au score, évidemment, ça va changer la donne sur le plan mental. 5-4, Koboli. 15A, l'Italien est au service. Bonne première. Un ace. C'est un ace. C'est même un ace à 194. Là, le bras va beaucoup mieux, Flo, hein.
Oh, ça va, ça a l'air d'aller. Il reprend la même balle aussi.
Comme Richard Gasquet.
Comme Richard.
Superstition. Allez. 2 points encore pour Koboli. Tout à l'heure, il était déjà à 2 points sur le service de Zverev. Ça n'est fallu d'un rien. Cet amorti qui était pourtant bien senti, qui s'était arrêté tout en haut du filet. Zverev n'avait pas bougé. 30-15. Out. Première balle, out. Couloir. Il avait servi le revers de Zverev. Deuxième balle de service. Faut pas qu'il se crispe, hein. Faut pas qu'il s'excite non plus. Parce que là, on sent qu'il est surexcité, mais dans le bon sens pour l'instant. Oh, c'est beau ce qu'il fait. 44! Il est euphorique.
Ouais, mais c'est un joueur qui est comme ça, qui a besoin d'intensité, qui a besoin de rythme. Et là, c'est son revers le long de la ligne, hein, qui fait encore une fois énormément mal à Zverev. Et il l'utilise que depuis quelques jeux, depuis le début du deuxième set. Il le fait plus, mais ça, les balles hautes qu'il a l'habitude de faire dans le jeu lui permettent ensuite de changer le rythme.
Allez, balle de 7, 45, il sert côté droit. Il interrompt son lancer de balle. Il y avait trop de bruit dans la foule, parce que la foule aussi se prend au jeu, bien sûr, Christophe. Service volé. Attention, là, il s'est troué, là.
Oh là là, il se troue, Zverev. Passing dans le filet à 7 partout, après 1h30, pile.
1-7 partout donc entre Koboli et Zverev. La finale de Roland Garros s'est complètement relancée et nous allons évidemment suivre cette finale jusqu'au bout, alors que pendant ce temps-là à Monaco le Grand Prix est toujours interrompu. On ne sait pas encore quand ça va reprendre. Il est 16h58, dans un instant les infos et ensuite on retourne à Monaco et sur le central.
RMC Intégral Sport.